Aujourd'hui, je vous emmène à Québec à la rencontre d'une famille extraordinaire dont le quotidien est à la fois un défi et une source d'amour inépuisable. Boris et Brigitte sont les parents de Juliette, 18 ans, qui vit avec l'autisme, la déficience intellectuelle et la dyspraxie. Leur vie a basculé il y a 18 ans, les propulsant dans un monde de proche aidance qu'ils n'auraient jamais imaginé. Comment ont-ils adapté leur vie pour répondre aux besoins de Juliette tout en prenant soin de leurs deux autres enfants? Comment parviennent-ils à trouver un équilibre entre leur rôle de parent et celui de proche aidant? Maintenant que Juliette a 18 ans, quels sont les défis pour les parents de ce passage à l'âge adulte? Boris et Brigitte nous ouvrent les portes de leur maison et de leur cœur pour nous parler de leur réalité quotidienne.
Bonjour! Ça, c'est Delphine et Loïc. J'ai l'impression de vous connaître. Bonjour. 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 Ça, c'est Juliette. Bonjour. Comment vas-tu?
Bien.
Ça fait plaisir. Oui. Puis Boris.
Bonjour.
Et Brigitte. Bonjour. Ça va bien?
Oui.
Boris et Brigitte, je veux d'abord vous dire merci de nous accueillir dans votre maison. Ça fait quelques minutes qu'on est arrivés, puis il y a une énergie ici, il y a une chaleur, Il y a de l'amour, là, ça n'a pas de bon sens. Puis je pense que toute l'équipe, on est... Je le dis, puis ça m'émeut de dire ça, mais c'est quand même magique de rencontrer des gens comme vous. Puis je me posais la question, est-ce qu'on s'est déjà intéressé à votre histoire?
Non, je pense que pas. Ben, pas de façon aussi importante, je dirais. Ouais, au jour le jour, oui.
On va commencer par le début. Vous êtes tombée enceinte à quel âge?
Ah mon Dieu, j'avais 32 ans. J'étais quand même pas jeune. J'avais quand même un certain parcours de vie.
Oui.
C'est ça, j'en avais parlé un petit peu à Zoé. J'avais une médecin sans frontières, en fait. Fait que ça avait quand même été une bonne expérience. Fait que je trouvais que j'étais quand même, tu sais, une personne outillée. Puis on dit, bon, ben, tu sais, on voulait des enfants. Fait qu'on a dit, let's go. Je t'ai pas planifié, mais
t'sais, parce que vous êtes infirmière, vous
oui,
le dire
oui,
aussi,
oui,
là.
Oui.
Ouais.
Fait que j'ai dit, let's go, ça arrivera quand ça arrivera. Fait que Juliette est arrivée.
Oui, mais avant qu'elle arrive, pendant votre. J'ai cru comprendre que pendant votre grossesse, à un moment donné, il y a eu une période d'inquiétude parce qu'il se passait quelque chose au niveau de la croissance.
Oui, oui, oui. À 20 semaines, quand il y a un contrôle, là, ils se sont comme aperçus qu'il y avait trois marqueurs différents de trisomie. Fait qu'au moins, c'était trois différents. Fait que, mais tu sais, il y en a un, c'était la grandeur du fémur. Il y en a un, c'était les piliers du cœur. Puis il y en avait un troisième que je ne me souviens pas. En fait, mais tout était comme un peu, on a dit, on n'est pas grand, on ne s'attendait pas à des grands-enfants. Les piliers du cœur, ben, en fait, tous mes enfants ont eu ça, fait que c'est juste parce que j'étais hyper écogène. On voyait très bien les structures fœtales. Puis le troisième, je ne me souviens pas, fait que c'était toutes des choses qui n'étaient pas reliées. Fait que, à ce niveau-là, c'était comme, bon, plus ou moins, tu sais, plus ou moins, comment je pourrais dire, plus ou moins, je ne veux pas dire anxiogène, mais tu sais,
c'est inquiétant.
Plus ou moins, c'est ça, inquiétant. Ouais. Puis, fait que là, ils ont dit, on va quand même vous regarder à 28 semaines, puis on va voir. Puis là, à 28 semaines, ils disaient, ben là, il y a plus de choses, on trouve pas. Fait qu'on était suivis beaucoup plus rapprochés, là.
Ouais. Puis là, on est dans quel état quand on se sent suivi comme ça, puis que on veut pas dramatiser, mais en même temps, on sent qu'autour de nous...
c'est quand même, puis c'était une première grossesse,
oui.
On sait pas à quoi s'attendre non plus. C'est tout nouveau, les hormones, la grossesse, c'est le système de santé relié à ça. Mais on était quand même bien pris en charge par les médecins, mais on savait pas. Puis tout ce qui avait été fait comme... comme karyotype, là, quand ils ont regardé les chromosomes, tout était normal, ils ne trouvaient rien. Fait qu'on était un peu dans... Bon.
Rassurés en même temps.
Oui, c'était un fœtus viable. Tu sais, on n'avait pas rien à s'inquiéter. Tu sais, c'est comme
juste
on verra.
Ouais,
le poids qui était un petit poids.
Je trouvais qu'il ne prenait pas beaucoup de poids dans l'utérus.
Un
retard développement intra-utérin. Donc, il voulait la suivre pour être sûr qu'elle prenait du poids à chaque semaine de façon régulière.
Puis là, 37e semaine... On provoque, on déclenche.
Oui, c'est ça. La médecin a dit, je vous ai amené au bout. Elle a dit, là, on déclenche. On a dit, OK.
OK.
Fait que là, on est resté à l'hôpital, puis c'est ça, le travail s'est enclenché.
Puis elle était toute petite.
4 livres.
4 livres
ouais,
et une once.
Mini, ouais.
Petite boulette d'amour.
Ouais, avec plein de cheveux déjà.
Ah oui, hein. Et là, on se fait déclencher notre accouchement.
Oui.
4 livres et une once.
Oui.
Premier bébé.
Oui.
Là, papa et maman, vous êtes dans quel état?
Un bon état. C'est comme
oui,
moi, j'en étais, là.
Puis moi, c'est ça. Moi, je pense que mon expérience a teinté quand même cet aspect-là. Là, parce que,
le fait que vous êtes infirmière.
Ben, puis que j'arrivais d'Afrique.
Aussi.
J'avais fait
oui.
6 mois en Afrique. Fait que là, là-bas, c'est tout un autre monde, là. Les soins, puis la survivance des bébés.
C'est là, ça. Comme, vous voyez le pire, là.
C'est ça.
Ouais.
Fait que là, c'était comme, ben, on avait quand même des soins, puis on voyait comment ça allait évoluer. Puis elle a quand même. On est resté 18 jours à l'hôpital, puis elle prenait quand même bien son poids et tout. Fait que...
L'allaitement, ça allait bien aussi.
Ben, l'allaitement, c'était un premier bébé. Fait que c'est toujours un petit peu plus difficile.
Puis c'était un bébé en santé.
Ben, il y avait pas fond, une maladie, c'est ça. De pas rien de déclaré.
Ouais, le placenta était super beau.
Ouais, c'était peut-être une inquiétude aussi.
Fait que tous les premiers mois, parce que c'était 6 mois, là, qu'à un moment donné, oups, vous remarquez ça. Des choses. Mais jusqu'à 6 mois... Ça se développe, ça évolue, elle est suivie, j'imagine, aussi,
oui,
quand même.
Oui, elle est plus serrée, elle est toujours pas grosse, mais elle prend toujours son pot régulier, fait que, tu sais, ça va bien. Puis à 6 mois, ben là, c'est ça, moi, je m'aperçois qu'il y a comme un problème au niveau développemental.
C'est vous qui avez demandé, en fait, vous avez dit, regardez, on vient vous voir parce que ça.
Oui, oui, c'est ça. Fait que là, notre pédiatre, il dit souvent, avoir un œuf, c'est difficile d'avoir des évaluations, puis de... d'avoir un diagnostic. Ben, puis on ne veut pas vraiment non plus un diagnostic franc parce que quand on a un diagnostic, on est un peu pris avec notre diagnostic.
Mmh, en général, c'est ça. Hein? On ne veut pas trop des diagnostics, surtout avec les enfants. Hein?
C'est parce que
ça nous met dans des cases où là, ça peut compliquer.
Effectivement, ça limite les interventions. Fait que là, c'est arrivé à peu près vers 18 mois, 2 ans que l'on s'est retrouvé vraiment en évaluation en clinique de développement au CHUL. Puis là, il y avait 4 spécialistes. Une ergo, une physio.
Avant ça, il y a eu... au début de l'automne, on est allé au CHUL, puis là, on était suivi par plein de spécialistes médicaux, donc neurologues, cardiologues, généticiens, pour faire plein de tests sur l'enfant pour voir si elle n'avait pas un problème. Au niveau des neurologies, c'est super bon. En fait, tout était beau, cardiaque, développement, colonne vertébrale, tout était correct. Niveau génétique aussi. Donc, ils ont refait des tests génétiques, ils n'avaient rien trouvé. Donc, comme ils ne trouvaient aucune source... médical, si je peux dire, là, du retard de développement. Ben, là, on est allé voir une équipe multidisciplinaire, donc ergothérapeute, physiothérapeute, psychologue et orthophoniste, qui ont chacun fait une évaluation de sa condition. Puis là, ben, ils ont dit retard global de développement. Donc là, elle avait 2 ans. C'est un premier diagnostic qu'on a eu, retard global de développement. La cause, on ne la connaissait pas à ce moment-là.
Le chromosome 7, là, c'est venu après l'histoire du chromosome manquant, c'est ça?
Oui, c'est ça. Pendant la 2 ans de grossesse de Brigitte, c'est arrivé ce phénomène-là. Pas ce phénomène, mais cette... la cause.
Là, papa, maman est dans quel état, là, à travers tout ça, là? Je veux dire, c'est un premier... Puis c'est toujours un premier bébé, là.
Quand on a eu le diagnostic, là.
Oui.
Quand on l'a eu, j'étais plutôt... pas dire content, mais de finalement avoir un diagnostic et de dire qu'on va avoir des soins, des ressources.
Maintenant, on sait.
C'est ça.
Maintenant, on fait quoi?
Donc, on fait comme un step par en avant. Ginette venait de rentrer à l'école.
4 ans.
Oui, on a rentré 4 ans.
4 ans.
Oui, maintenant 4 ans parce qu'elle ne parlait pas encore à ce moment-là. La garderie où elle allait. Hein?
On
avait appris des signes pour communiquer avec elle.
C'est ça, le langage des signes.
Oui, parce que toute personne.
Mais ça, là, est-ce qu'on vous l'a dit ou c'est vous qui avez fait on va se débrouiller, là. Fait qu'on va apprendre le langage. C'est tout de votre initiative.
Et avec la famille et les amis, là,
on
va leur dire souvent là, dans l'entrevue, là, on est vraiment très choyés du support qu'on a de la famille et des amis autour de nous. Et la blonde de mon cousin, elle travaille dans une école spécialisée. Puis quand elle a vu que Juliette ne parlait pas, elle dit connaissez-vous ça, les mains animées? On a dit non, on ne connaît pas ça. Fait qu'elle nous a fourni un livre dans lequel il y avait, je pense, c'est 65 ou 125 signes
de base
pour pouvoir communiquer avec les signes et avec l'enfant. Parce que toute personne dans la vie a besoin de moyens d'expression, de communication. Il
ne
faut pas qu'elle reste enfermée sur elle-même. Il faut lui donner des outils pour communiquer puis que nous aussi, on puisse la comprendre. Fait qu'on a commencé avec ça. Donc, les mains animées. Et puis, là, à la garderie, elle allait dans une garderie avec une éducatrice spécialisée. Donc, on avait quand même un groupe là, spécialisé avec une superbe là, éducatrice qui s'appelait Karine. On sentait qu'elle avait besoin de plus de stimulation ou des gens qui avaient beaucoup d'outils, dans le fond, pour l'aider à se développer.
Donc, justement, à cette période-là, là, tu sais, comme de 0 à 4 ans, là, 4 ans, elle rentrait à l'école, si on veut, là, mais... C'était quoi les besoins de Juliette au quotidien, là?
C'était tout.
Tout, ça veut dire tout. Quoi?
Bien, j'essayais de trouver, tu sais, je savais pas si elle avait faim. Elle communiquait pas vraiment quand elle avait faim. Tu sais, j'avais dit, ben, si t'as faim, tu sais, je lui montrais, il y a le réfrigérateur, tape sur le réfrigérateur, mais même ça, tu sais, c'était comme difficile à comprendre. C'était...
Elle parlait pas.
Elle émettait pas de son.
Elle marchait-tu?
Elle a marché très tard, 18 mois, mais elle se promenait. Elle était capable de se promener puis de se cacher.
Okay.
C'est fou, là, ils trouvent des... Ils trouvent des avenues, là, ça, c'est sûr, à grimper partout, là, c'était dangereux. Fait que c'est ça. Fait que quand on a trouvé au moins les mains animées avec son problème de dextérité, on était capable quand même de communiquer. Fait que ça a été pas si pire. On a trouvé ça, il était... Elle avait quel âge? 2 ans et demi, à peu près?
Les mains animées?
Ouais, en tout cas, mais on a trouvé ça. Fait que, mais c'était en général, là, c'était, tu sais, pas capable de s'occuper d'elle, elle vaut pas le danger non plus. C'est ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est... Puis elle était petite, fait que c'était aussi un avantage pour nous, tu sais, comme elle était pas capable d'ouvrir les portes.
Oui, il y a des avantages.
Fait que, tu sais, il y a plein de choses comme ça. C'était tout le temps.
Toutes les soins d'hygiène.
Oui.
Là, à partir du moment où vous avez eu un diagnostic, bon, déjà à la naissance, là, whoops, OK, vous me parliez de l'entourage, la famille, les amis.
Oui.
Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que... Parce que souvent, quand on vit de grandes épreuves, de grands moments marquants dans nos vies, il y en a qui fuient, il y en a qui...
Ouais.
Ça vous dit quelque chose, non. Hein? Comment ça s'est passé, ça, pour vous? Les gens autour de vous ont réagi comment? Vos parents, tu sais, les grands-parents?
Ils ont très bien réagi.
Ouais.
En fait, j'acquise la tête en fuyant parce que, malheureusement, c'est une situation que les gens vont vivre, mais pas du tout dans notre cas. Mm. Jamais.
Fait que vous avez toujours eu du support de vos parents.
Ouais.
Les deux seules gardiennes, c'était nos deux mères, en fait, parce que, tu sais, on pouvait pas confier Juliette à n'importe qui, là. Fait que ça a été longtemps juste...
Vive nos mamans!
Je pensais pas avoir besoin de ma mère à cet enjeu comme ça!
Moi, la mienne, elle m'a tellement aidée, ouais, là, fait que je sais!
C'est juste les 18 jours qu'on a passé à l'hôpital, là, les premiers 18 jours quand Juliette est née.
Ouais.
Moi, je restais à l'hôpital pour être avec Brigitte puis avec Juliette, là...
Ouais.
Être avec eux, puis c'est sa mère qui faisait des repas, puis qui venait nous les porter. Il y avait un frigeur, un micro-ondes, puis l'hôpital m'avait trouvé une petite pièce pour que je puisse coucher à l'hôpital. Fait que,
Fait que dans tout ça, vous avez été bien accompagnée dans ce voyage-là, puis encore aujourd'hui, vous semblez dire que c'est quelque chose qui a toujours été, parce que c'est une clé importante.
Oui.
On a beau être un père et une mère,
On tombe dans un état de vulnérabilité assez intense, je dirais. Mais on a quand même été chanceux. Puis avec notre gang de plein air qu'on appelle, c'est une gang d'université là, qui ont toujours été là. Puis, tu sais, on s'adapte toujours avec Juliette, on l'amène partout. Mais, tu sais, ça a toujours été comme ça avec tous nos enfants. Puis ça n'a pas été différent avec Juliette, là. Tu sais, elle s'est toujours intégrée.
Oui, mais quand vous dites, Brigitte, on se retrouve dans un état de grande vulnérabilité, ça se traduisait comment dans votre quotidien? Tu sais, est-ce que vous avez eu des moments, j'imagine, où on craque, où on se cache dans un coin pour on braille notre vie parce qu'on est désemparé aussi, là, je veux dire, on n'est pas à l'abri de ça.
Oui, non, tout à fait. Ça a été plus tard. Moi, j'ai craqué pas mal plus tard.
Oui?
Mais c'est sûr que des fois, tu as des petites tendances ici, hein?
Mais plus tard, ça veut dire quand?
Après, tu sais, à un moment donné, t'es dans le feu de l'action.
Oui, t'sais, aussi.
Fait que, je suis quelqu'un, tu sais, qui répond, qui s'adapte, puis, tu sais, qui trouve, qui arrange, puis, tu sais. Fait que, tu sais, t'es pris dans le feu de ça quotidiennement, puis, tu sais, une maman, ça s'occupe de ses enfants. Fait que tu t'occupes de tes enfants, tu roules. Ah, un autre problème. OK, on règle un autre problème. Tu sais, c'est du jour, tu sais, du quotidien, du événementiel.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est comme, puis, c'est ça. À un moment donné, tu t'aperçois plus tard, là, après les 3 enfants, tu fais... Ouf!
Ouais, de prendre du temps pour faire une introspection.
Vous, le père, tu sais, parce que le père.
S'occupe des enfants aussi, le père.
Oui, de toute évidence, je vous le confirme. Mais tu sais, je sais pas, souvent on pense que les pères, ils vont en tout cas plutôt peut-être se cacher ou vont tenir. Puis vous aussi, vous avez eu un moment où vous avez craqué? Sans même peut-être que Brigitte le sache tout de suite, là?
Non, on dirait que je pense que je suis encore plus cartésien que Brigitte de par ma formation. Fait que moi aussi, c'était « OK, on a un problème, il faut trouver une solution. »
Dire que vous êtes ingénieur.
Oui, je suis ingénieur, effectivement, oui.
Donc, de par votre formation?
Ben oui, je pense aussi, puis oui, je suis assez cartésien. Ouais, caractère aussi. Ouais, c'est pas juste la formation, c'est le caractère, la personnalité. Là, tu sais, il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Et ben, 3 enfants, fait que c'est le quotidien que toutes les familles connaissent aussi.
On a commencé à jaser, puis j'ai senti que vous étiez très émotif.
Oui, bien, c'est ce que j'allais dire. C'est maintenant que je trouve que c'est plus difficile.
Ah oui, hein? Pourquoi donc? Parce qu'on tient. Elle a 18 ans aujourd'hui.
Ouais.
Fait que, est-ce que c'est à travers ces 18 ans-là, son 18e anniversaire, qu'on refait tout un voyage aussi?
Oui, et beaucoup de projections.
Pour le futur.
Que je faisais pas beaucoup. quand ils étaient plus jeunes. Brigitte, plus. Les mères sont souvent plus craintives.
Ouais.
Ils anticipent plus l'avenir souvent que les pères, de par personnalité.
Et
par
le travail aussi.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, à 8 ans, je me disais, bon, on n'a pas à se préoccuper de ce qui va arriver à 20 ans. Là,
c'est loin, là.
Oui, il faut croire qu'on la protège, elle est vulnérable, etc. Donc, on n'a pas de choses à faire maintenant pour préparer ça.
On a encore bien du temps.
C'est ça, exactement. Mais les 18 ans, on l'a quand même préparé d'avance. On savait que ça allait être une épreuve, pas une épreuve, mais une étape importante là, dans sa vie, dans la nôtre aussi. Ouais, c'est...
Vous êtes rendu là
un peu. Les souvenirs, puis le futur. Et,
ouais, on va y revenir.
Ça fait ressortir plein d'émotions.
Ouais, ouais. On va y revenir, c'est sûr, mais à travers nos échanges, là, on parle trois enfants. Ah! Quand on a eu un premier bébé avec des besoins donc très particuliers, très spéciaux, est-ce que, vous ne semblez pas de toute évidence parce que vous avez trois merveilleux enfants, mais est-ce que vous avez eu peur de penser de retomber enceinte? Ça, c'est-tu quelque chose qui vous a au départ freiné ou non?
Oui, oui. Ben, au début, tu te demandes, tu dis, oh, on est-tu porteur de quelque chose? Fait que là, ben, avec tous les examens qu'on avait faits et tout, il semblerait qu'on a juste gagné à la loto des chromosomes finalement.
Oui, on ne savait pas à ce moment-là, en fait. Si on fait la petite histoire, là,
ouais, ben, on a eu
Juliette.
Ouais.
Après ça,
on le suit en même temps, la deuxième grossesse.
Ouais.
Au fur et à mesure du temps, vos enfants ont réalisé, puis vous les avez informés aussi de la situation de Juliette?
Je pense qu'ils ne se posaient même pas de questions.
Ah non, hein?
Ouais.
Jusqu'à un certain âge, qui ont des choses particulières.
C'est ça.
Mais tu sais, je pense qu'ils ne se sont même pas posé de questions. Puis, ben, Loïc, c'est arrivé quelque chose. Loïc, ben, tu sais, tous les enfants ont un caractère spécial. Puis Loïc, lui, est un peu moins... un peu moins proche, mais pas parce qu'il l'aime pas, juste parce que par sa personnalité, il est peut-être moins...
affectif.
Ouais, mais c'est ça, il aime sa soeur, puis tout ça. Mais j'ai dit... Puis là, il se
posait moins démonstratif.
Moins démonstratif. Puis là, je disais, tu sais, quand t'étais petit, puis tu pleurais, t'échappais ton jeu, ben j'ai dit, c'est Juliette, j'ai dit, qui prenait, qui te l'ordonnait pour que t'arrêtes de pleurer. C'est elle qui te chantait des chansons, quand tu sais, fait que... Ouais, ouais, tu sais, c'est comme... C'est le même, c'est pas plus compliqué. Là.
Fait qu'il y avait quelque chose de naturel entre eux.
Ben oui.
Comme si Juliette, elle savait que c'était la grande sœur aussi, j'imagine. Mm-hmm. Il y avait quelque chose de...
C'est ça, il y en avait d'autres.
L'instinct naturel. Ouais.
Fait que ça a toujours été...
Puis, je vais jaser avec eux, évidemment, mais est-ce qu'il y a eu des étapes avec les enfants où ça a été comme plus dur? Est-ce qu'ils se sont sentis... Je connais la réponse,
oui.
Pour comprendre le processus, des fois, peut-être, est-ce qu'ils ont eu des périodes où ils trouvaient que Juliette prenait trop de place par rapport à eux autres, puis... tu sais, des fois, ça crée des réactions, puis c'est normal, là.
Pas de façon... non.
Dramatique.
Ouais. Hein. Effectivement, ils vont mieux répondre à la question que nous.
Ouais.
Nous, on n'a jamais senti qu'il y avait vraiment un enjeu de ce côté-là. Mais on a toujours essayé de faire attention à ça, aussi. Parce que oui, Juliette, c'est le centre de notre vie,
ouais.
Là, faut tout faire en fonction de ses limitations et au niveau des activités aussi. Fait que quand on veut faire des activités en famille, les cinq ensemble, ben il faut s'assurer que ça convienne à Juliette. Fait que pour ça, il y a des activités qu'on ne peut pas faire. Faut adapter certaines activités, puis ça plaît pas. Mais pas que ça plaît pas, mais si Juliette n'était pas là, on aurait fait d'autres activités avec les deux plus jeunes qui auraient été plus selon leur goût et leurs besoins.
C'est sûr.
Donc ça, on a toujours essayé de faire attention d'aller chercher du répit. Fait que c'est arrivé quand même, c'était pas simple à en trouver, mais quand on en a trouvé, on en a profité pour pouvoir avoir des fins de semaine avec les enfants, pour faire des activités juste avec les enfants, d'une part. D'autre part, pour aider aussi un peu toute le fait que Brigitte, à cette époque-là, travaillait une fin de semaine sur deux. Fait que la fin de semaine, des fois les répits, c'était une fin de semaine qu'elle travaillait. Fait que là, moi, ça me donnait un peu de répit, puis j'avais juste les deux plus jeunes, j'avais pas Juliette. Puis des fois, mais c'est une fin de semaine qu'elle travaillait pas. Là, on était les quatre, là, on peut faire une activité plus spécifique avec les deux plus jeunes.
En parlant de répit, donc aller chercher de l'aide.
Oui.
Je pourrais constater que vous avez jamais eu de misère à aller chercher de l'aide parce que c'était des soins puis des besoins. Vous aviez votre famille, votre entourage, mais encore, est-ce qu'on ne veut pas demander de l'aide?
Non.
Il y a ça, des fois?
Non, ben, c'est que on voulait pas non plus épuiser nos grands-mamans.
Ouais, moi, les ressources de
ça,
base,
ça,
là.
Oui, c'est ça. Puis, il y avait aussi, ben, tu sais, à un moment donné, on est brûlés un peu, tu sais, comme nouveaux parents.
Mais déjà trois enfants.
Oui, c'est ça.
Mais Juliette, elle en vaut peut-être deux, trois juste à elle avec ses besoins.
Elle a dit, t'as pas trois enfants, toi, t'en as quatre.
C'est ça.
Mais c'était aussi, quand je me suis mis à chercher ça, c'était pas évident parce qu'on n'avait pas de diagnostic. Fait qu'on rentrait pas partout non plus. Ça a été... J'ai fait beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps. Puis là, on remonte quand même à il y a 18 ans, il y a 15 ans. C'était déjà aussi un autre monde en tant que couverture et acceptation Iberi. Puis on n'en parlait pas beaucoup. Fait que j'ai beaucoup cherché. Je me suis fait refuser beaucoup de places.
Ah oui?
Jusqu'à ce que
pourquoi? Parce que vous n'aviez pas de diagnostic.
J'avais pas de diagnostic. Elle répondait pas. Tu sais, Juliette était petite, elle parlait pas. On était quand même... pas si pire, elle était pas gavée, elle était pas aux couches. Fait que, tu sais, on était quand même pas pire, fait qu'on tombait tout le temps entre deux offres de services.
C'est ça, soit des centres de répit où les enfants, il faut qu'ils soient gavés, aux couches, polyhandicapés, où là, ils offrent ces services pour ces familles-là. D'autres endroits, il faut avoir un diagnostic d'autisme, par exemple, ou de déficience intellectuelle. Nous, on avait un rapport global de développement. Donc, c'était pas assez ciblé sur un diagnostic pour pouvoir rentrer à certains endroits. Jusqu'à temps que je découvre...
Oui, j'appelle, puis je parle à Marie-Ève, aux petites lucioles. Donc ça a été... on a eu quelques soleils. Moi, je les appelle mes soleils dans ma vie, là, dont les petites lucioles.
Qu'est-ce que ça représente, cette maison? Les maisons lucioles, parce qu'il y a deux offres de services.
Il y en a deux maintenant, ça m'a fait beaucoup de bien aussi quand il y a eu la deuxième. Ça a été l'acceptation. Parce que c'est pas facile d'avoir un enfant différent. Je pensais pas être émotive comme ça. L'acceptation de la différence n'est pas évidente. Puis ça l'était encore moins il y a 18 ans. Là, tu sais, tout ce qui est maintenant santé mentale, différence, on en parle plus.
Oui.
Tu sais, l'identité de genre aussi en fait peut-être partie du processus, que c'est plus facile, qu'on est plus ouvert. Mais c'était... Le jugement des gens était difficile quand même, même avec une enfant en bas âge.
Ben c'est ça, c'est ça. Oui. Ça a dû, vous avez vécu
le
ça.
Le jugement était difficile. Puis les gens pensent que parce que ton enfant a un besoin particulier, comme il y en a une fois, ma petite remarque, elle dit, vous savez, elle dit, vous pouvez la chicaner, votre enfant. Là, je fais, mon enfant n'a pas un comportement différent parce que je ne mets pas de discipline ou à la maison ou que je ne m'en occupe pas. Là. J'ai dit, c'est parce qu'il y avait un problème, tu sais, autre. Fait que, tu sais, le jugement des gens, c'était quelque chose, là.
Fait c'est que, comme si tu t'occupais pas assez de ton enfant, qui avait son comportement-là.
Ça faisait des caprices, puis
ça compte. C'est pas dans son développement. Fait que quand je suis arrivée aux petites lucioles, puis j'ai parlé à Marie-Ève, puis là, j'ai dit... puis j'ai fait répéter deux fois, parce que j'étais comme étalée. Puis là, j'ai dit, vous savez, j'ai dit, pas de diagnostic. Elle dit, c'est pas grave. Elle dit, on accepte tous les handicaps. Je fais, mais vous êtes sûre? Elle dit, oui. J'ai fait, ouf!
Vous venez de gagner la loterie, là.
Oui, ça m'a fait du bien. Fait que ça a été un soleil, les petites lucioles. Fait que là, il n'était pas situé à la même maison. Il était situé, là, c'était vraiment au tout début.
Là, à quel âge, à ce moment-là, les maisons lucioles?
Ah là, je pense qu'elle devait avoir 4-5 ans.
OK, fait qu'en même temps que l'école aussi, là.
Oui, ça a été des grosses périodes.
Puis là, je lis le nom Joseph Paquin. Ça, c'est l'école. OK, parlons de ça. Fait qu'à partir de 4 ans, il y a l'école Joseph Paquin, il y a les maisons lucioles qui rentrent dans vos vies.
Oui.
Ça, c'est un changement, là. Là, vous prêtez vos enfants, vous prêtez votre fille, là, vous vous séparez d'elle.
Oui, c'est un apprentissage.
Ça doit être angoissant, là, aussi.
Là, c'est la fin de semaine. La semaine, l'école, c'était pas si pire parce que, elle allait à la garderie, quand même.
Ouais, à temps plein.
À temps plein.
OK.
À temps plein, moi, une journée, une fois de temps en temps, quand j'avais mes journées de congé de semaine que j'ai gardées avec moi, mais tu sais, en théorie, elle était pas mal.
Donc, vous aviez eu accès à une garderie avec des soins spéciaux, là, avec un enfant qui a des besoins.
Oui, on était chanceux aussi. Parce que la première garderie en milieu familial, ça non plus, après un an, elle dit « je peux pas la garder ». Bon, c'est toujours, il y a toujours à discuter, mais enfin. Puis là, par hasard, là, c'était comme, on était en plein été, on cherchait parce que là, on n'avait plus de garderie pour l'automne. Puis là, ils nous appellent, puis ils disent « oh, on a une garderie, puis on a une éducatrice spécialisée avec 4 enfants à besoin particulier ». Fait que là, on dit « ouf ». Fait que ça a été notre... un autre, et puis ça l'a fait du bien. Fait qu'on savait qu'il était dans son petit groupe, puis il était avec son éducatrice Karine.
Puis vous aviez confiance.
Oui.
Ça a-tu pris du temps à avoir confiance? Parce qu'on n'est jamais. Il n'y a personne de meilleur que nous autres, là.
Ben,
c'est nous autres, on veut tout faire, puis c'est juste avec moi qu'elle veut ça. Puis avez-vous eu ça, vous?
Non, c'était pas. Ben, tu sais, puis il y a des gens avec qui tu le sens que ça va bien.
Ouais.
Il y en a d'autres avec qui tu as une retenue, puis il y en a avec qui tu fais c'est correct. Puis tu sais, c'est sûr que. Tu sais, c'était dans le processus aussi, peut-être de l'enfant a besoin de particulier, tu sais, ben, je savais pas tout, puis je savais qu'il y avait des choses que je n'étais pas la plus compétente. Fait que, tu sais, je laissais aux gens leurs compétences, puis moi, je faisais mon côté, puis C'est ça. Je me disais, ben, de toute manière, on essaye, puis on voit. Si ça ne fait pas, ben, on fera un plan B. C'est comme...
Puis vous avez vu quand votre enfant revenait aussi qu'elle semblait bien, oui. Heureuse.
Oui.
Ouais.
Oui.
Juliette est toujours heureuse.
C'est ça.
Ouais. C'est une bonne chose, une très bonne chose. C'est une enfant qui est plein de soleil, tout ça, mais...
Puis qui est en santé, il faut le dire, hein?
Oui.
Elle a des besoins particuliers, oui. Mais ses organes, là, je veux oui. dire, être oui. en santé...
Beau médical, c'est ça. C'est ça, ça va très bien. Donc, toujours de bonne humeur, rayon de soleil, ça a l'inconvénient que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, on ne le saura peut-être pas non plus. Ah, oui. Si elle n'est pas heureuse à un endroit, elle va arriver à la maison, elle va être de bonne humeur, puis ça
ah, oui, hein?
Elle va dire oui.
Sa personnalité change jamais.
Ah, pour qu'elle pleure, il faut qu'il
y ait... Il arrive de quoi de grave, là.
Oui.
OK. Ouais. On a parlé aussi de faire des activités là, avec les deux autres enfants. Ça veut dire quoi, toutes ces limitations-là? Des exemples, tu sais. Vous voulez faire un voyage, mettons, on va aller au Kilimanjaro, là. C'est un peu exagéré. Peut-être, mais tu sais, partir une semaine en vacances, là.
Les activités, des limitations... dans presque tout, compte tenu physiquement, là, elle n'est pas capable de faire les mêmes choses. Le ski, par exemple. Faire du ski alpin, on aime ça faire du ski.
Quand qu'on s'organiser, là.
Oui, mais on l'amène...
Tu partais avec les deux autres ou...
Bien, sûr qu'on se sépare, effectivement, avec un ou deux, avec un des parents. On essaie quand même d'y aller une ou deux fois par année, les cinq ensemble. Puis là, mais je la mets entre mes jambes pour faire. Fait qu'elle met ses skis, elle a ses bottes, puis c'est comme si... Je me mets en chasse-neige, puis je la
force. Puis elle est volontaire, elle veut, là.
Ah oui. Elle a passé sa journée. Tout ce qui est vestibulaire, Juliette, là, elle embarque là-dedans tout le temps. Fait que du ski, bateau, kayak, la ronde, elle adore la ronde, mais le carrousel. Tu sais, des manèges très minimalistes, je peux dire, là, mais elle passe sa journée dans un carrousel avec les chevaux. Louis puis Delphine, eux autres, un tour, puis...
Le monstre!
Moi, je vais aller... Ouais, c'est pas le monstre, c'est quoi, le Goliath?
Oui, c'est Goliath, ça, j'ai pas
de Goliath, là.
C'est
ça. Fait que là, on se sépare. Fait que moi, je vais faire... c'est ça, mais ça permet quand même d'avoir des moments de toute la famille ensemble, parce qu'on aime ça quand même faire les cinq à la même place. Mais il faut souvent séparer, parce que des limitations, puis des...
Mais je pense qu'ils ont appris à faire...
C'est, oui. C'est, ils s'adaptent. Mais si c'est une journée complète, des fois, c'est... T'sais...
Non, mais ils ne feront pas toujours le carrousel toute la journée. C'est mais si on est quand même pas loin, on finit un manège, on va les voir. OK, vous êtes tout OK, nous autres, on s'en va là. Ils ont toujours cette sensibilité-là.
Puis quand on parle de répit,
oui.
Ça se traduit comment, là, je veux dire, une fin de semaine? Je pense, je lisais que c'est que genre 6 à 8 semaines, 6 à 8 fins de semaine par année pour vous. Là.
C'est qu'on a commencé.
Il y en a 52 semaines dans une année?
Oui, ça, c'est au début. On fait avoir 3-4 fins de semaine. En pré-pandémie. Fait, même au début, au Lucia, là, pré-pandémie, c'était l'automne, on prenait 3-4 fins de semaine. En fait, une par mois, dans le fond, avec l'année scolaire. On en prenait 3-4 à l'automne, puis on en prenait 3-4-5 à l'hiver. Ça faisait à peu près 6-8 là, par année en fonction des disponibilités.
Je lisais sur un marathon. À un moment donné, vous êtes allé faire un marathon.
Oui, oui.
Ça, c'était une organisation là, de partir.
Ouais, ouais. On a
très peu... toutes nos ressources.
Ouais. C'était très rare.
C'est un appel à tous.
Ouais. Les moments où on était seuls, des fins de semaine, seuls, je suis arrivé peut-être 4-5 fois. Puis je pense que toutes 4 fois, c'était des marathons. Puis une fois, c'était le Manoir des Augustines ici à Québec là, qu'on avait eu par un organisme de prochaine danse. Mais sinon, on va prendre des répits sans Juliette, s'occuper des deux autres, mais juste nous.
Mais j'arrive à ça.
On n'en a pas. On n'en a pas
parce que vous êtes un père, une mère, vous êtes des parents, vous êtes. Mais vous êtes. Avant tout ça, là, vous étiez des amoureux, vous êtes des amoureux. Mm-hmm. Un homme et une femme qui s'aiment. Ça, comment ça se passe au niveau du couple? Parce qu'il faut que. Tu sais, je veux dire. Juste un couple par rapport à la job, à la vie quotidienne, il faut se trouver des moments, des date nights, comme on dit, mais quand on a des enfants, encore plus. Mais là, un enfant parmi trois qui a vraiment des besoins particuliers, le couple, lui, les amoureux, comment ça marche, ça?
Ouais, c'est sûr que c'est ça. Il se retrouve plus bas dans la liste.
Dans la liste de
priorité. Oui, exactement. Ouais.
Mais vous êtes un duo solide. Hein?
Ben, en fait, c'est plus là-dedans qu'il faut qu'on se retrouve. C'est dans le quotidien.
Ouais.
C'est au jour le jour.
Puis avez-vous eu des périodes, chacun là, individuellement, là, où on veut tout sacrer ça, là, qu'on veut fuir, qu'on c'est juste trop là, dans notre vie?
J'ai pas, non. Tellement d'amour, en fait, par Juliette.
Oui. Ah, c'est ça. Mmh.
C'est...
Ouais. C'est... J'essaie depuis ce matin, ou ça fait quelques jours, que j'essaie de penser à des mots. Tu sais, des fois, on parle des mots, mais c'est aussi notre... Tu sais, des fois, on dit, on est comme un support pour elle, mais elle, c'est aussi un guide. Tu sais, elle nous empêche comme de partir à des rêves, je dirais.
Wow, aussi, OK. Ben, ouais. Tu sais, c'est aussi... Mon Dieu, c'est moi qui...
Ça, elle nous ramène à l'essentiel.
C'est ça.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, c'est comme l'autre jour, elle me dit « Wow, maman, t'es belle en pyjama. » Tu sais, c'est comme « Ben, merci, ma juju d'amour. » Tu sais, je peux pas rien dire d'autre à ça, là. Tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est l'essentiel de la vie. Tu sais, elle nous rapporte à ce qui est vraiment important. Fait que, tu sais, des fois, on aurait le goût de... Ben, en tout cas, on aurait le goût. Pas trop nos personnalités, mais mettons, de s'égarer.
Oui, oui, c'est ça.
Fais... Non. Elle te ramène, puis...
Parce que le bonheur, il est ici, dans le fond. Et là, l'avenir. On l'a un petit peu abordé tantôt. Juliette a 18 ans. À 21 ans, il y a un changement majeur parce que là, en principe, c'est ça, c'est qu'elle n'a pas autant accès à des services. Hein? 21 ans, là, c'est un...
la fin de la scolarisation.
Ouais. C'est ça.
Ouais.
Et ça, on envisage ça comment? Parce que vous disiez, tu sais, à 8 ans, tu fais comme... Mais c'est loin, là, à 18 ans, 20 ans.
Ouais.
Mais là,
ouais.
Vous y êtes, là, dans 3 ans. Donc, elle va avoir 19 ans cette année, c'est ça? Oui. Il vous reste 3 ans. Là. Comment on envisage le futur de notre enfant?
C'est très flou,
ouais.
Je dirais.
Oui, oui.
Encore
très oui, incertain. Quand même. Oui. Ouais. Parce qu'il n'y a pas. L'offre de service n'est pas énorme.
Encore,
puis,
hein?
Puis elle est. Ben, il y a quand même plein de belles choses qui existent, là. Mais il faut se qualifier, pas qu'à se qualifier, mais tu sais, que d'avoir.
Pour rentrer dans des cases.
Oui, c'est ça, exactement. Par exemple, mettons l'école aux adultes. Il y a des écoles aux adultes pour les enfants avec des besoins particuliers. Ils pourraient continuer à aller à l'école, mais là, ils sont dans un ratio 1 pour 20 ou 1 pour... 1 pour 16. Mais Juliette, là, dans la classe où elle est actuellement, il y a 3 éducateurs avec l'enseignante et son 5 enfants. Fait, elle est loin d'un ratio 1 pour 20. Elle est un ratio 3 pour 5 actuellement. Mmh. Fait que, ça se peut que, juste à cause de son comportement, son attitude, elle a besoin de plus d'encadrement. Peut-être 1, 5, 1, 6, ça fonctionnerait, mais 1, 20, 1, 16... Peut-être pas. Fait que là, c'est de trouver l'endroit où peut-être qu'elle pourrait aller. Plateau de travail adapté, camp de jour, école aux adultes. Et souvent, quand on trouve des endroits, c'est pas à temps plein. C'est 3 avant-midi par semaine ou juste les après-midi. Ça termine à 3 heures. Il n'y a pas de service de garde. Fait que oui, il y a beaucoup d'organisations. Il va y avoir beaucoup d'organisations. Là, on passe les 18 ans avec les aspects qu'il faut remplir. Et après ça, avec l'école, l'école, on fait de ça aussi. Là. Ça s'appelle la TEVA, là, c'est le transition école vie active. L'école où Juliette va, tous les enfants passent par ce processus-là. Fait que les intervenants à l'école, ils savent qu'ils doivent préparer l'avenir de ces enfants-là avec les parents, avec l'entourage. Et il faut s'y préparer d'avance aussi. Dans certaines écoles, ils commencent à aborder ça 3 mois avant la fin de l'école. Il est bien trop tard. Là.
Elle va devoir aller dans une résidence. Mais là, je lisais dans ma recherche qu'il y a comme 10 ans d'attente.
Oui, oui. Ouais.
Puis vous, j'imagine, là, je vous écoute puis je vous regarde aller depuis ce matin, mais j'imagine que vous avez envie de garder Juliette avec vous le plus longtemps possible.
Ouais.
Ben, tant que ça va être possible. Mais tu sais, on n'est pas à l'abri de, tu sais, qu'il nous arrive un accident ou quoi, là, tu sais, aussi. Fait que...
Ouais, la résidence, c'est quelque chose que...
C'est un
deuil. Ça va être très difficile.
Ouais, ouais. C'est un deuil.
Puis se préparer 10 ans d'avance aussi, c'est quelque chose...
Puis c'est beaucoup dépendant des intervenants des maisons. Puis, tu sais, on sait qu'ils ne sont pas éternels non plus. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on a aussi conscience, mais c'est quelque chose qu'on a, tu sais, qu'il faut à un moment donné lâcher prise. Parce qu'on n'a pas, tu sais, on veut le mieux, puis on va faire le mieux qu'on peut. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on lâche prise, parce que ça arrivera à rien. On ferait juste s'auto, je peux pas dire s'auto-détruire, là, mais s'auto, un peu s'auto-détruire.
S'auto-mutiler.
Ouais.
Fait que ça, c'est quand même anxiogène, de penser qu'il y a comme, il y a une minuterie, là, quand même, qui est déclenchée, parce que c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est comme dans 3 ans.
Les 21 ans.
Oui.
Oui, qu'est-ce qu'elle va faire le jour, pendant le jour des 21 ans?
Oui.
Oui, oui, absolument. Oui. Puis ça se pourrait qu'on ait besoin de prendre congé parce que on trouve pas suffisamment de services avec les heures. Et...
Puis tu sais, en même temps, elle a des droits. Vous, est-ce qu'on pourrait dire que vous en aurez de moins en moins? Parent, le fait qu'elle devient une adulte,
ah, oui.
Ben, 21 ans, ouais, au niveau de la loi, ouais. Là, il y a des...
C'est 18 ans, ça. Ouais, c'est 18 ans. En fait, la journée des 18 ans, Elle devient une adulte, elle devient majeure. Donc, nous, on perd tous les droits. À cette journée-là, la journée du 18 ans, on perd tout. On n'a plus aucun droit sur
Julie. Malgré sa déficience, elle est handicapée à un certain niveau. Ouais. Vous perdez vos droits. Elle, elle a les siens.
C'est ça.
Mais en même temps, elle n'est pas capable de prendre des décisions par elle-même.
C'est bizarre, mais en fait, milieu scolaire, ils vont établir tous les diagnostics, les besoins qu'elle a, le milieu de la santé aussi. Mais niveau légal, là, comme tout ce qu'il y a au niveau, même financier, les allocations, là, ça n'a aucun lien entre les deux. 18 ans, tu es présumé apte à exercer tous tes droits. Et là, si la personne n'est pas capable de le faire, ben, il faut prendre des décisions, mettre en place. Nous, on a mis en place une tutelle pour redevenir les tuteurs
légaux
de Juliette. Officiellement, on est la garde de Juliette parce qu'elle a pas décidé aujourd'hui de partir. Marina, si tu veux partir avec elle, elle serait heureuse de partir avec toi. Mais Juliette, vous l'avez vu, là, elle partirait avec tout le monde. Là,
je suis arrivée ici. Marina était comme si je la connaissais depuis toujours.
Ouais. Donc là, on a fait les démarches pour redevenir tuteur et reprendre les droits qu'elle n'a plus. Mais ça, c'est 18 ans. C'est ça, 21 ans, ben là, c'est les soins, l'école qui se termine.
Les activités.
Qu'est-ce qu'il va y avoir, on ne sait pas, mais peut-être qu'il va falloir qu'on arrête de travailler partiellement aussi.
C'est une éventualité.
Ouais.
Ça aussi, ça se prépare.
Ouais. Ouais.
Si j'étais le ministère de la Santé, là, à moi toute seule, là, vous êtes assis devant le ministère, je ne sais plus combien, de centaines de milliers, là, et c'est gros ce ministère-là.
Ouais.
Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là, au ministre de la Santé, là, vous comme parent, avec votre expérience de vie, avec Juliette depuis presque 20 ans, vous avez vécu là, où il n'y avait rien, puis si j'avais à résumer, vous vous êtes un petit peu battu tout au long de ces 18 ans-là, mm-hmm. puis vous avez eu accès à du privé parce que vous aviez les moyens aussi, chose que bien des familles n'ont pas. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là?
C'est d'offrir des soins de réadaptation en fonction des besoins de l'enfant et non pas des ressources financières ou des contraintes administratives qu'il pourrait y avoir ou des trajectoires de services qui sont mal faites dans le système.
Parce que la paperasse, ça, c'est interminable, hein, il paraît, là?
Il y a, à certains égards, oui, là, pour certaines...
Pas comme s'il fallait que tu recommences tout le temps alors que tu fais, elle a 18 ans, ça fait 18 ans que vous la connaissez.
Il y a des choses, il faut refaire plusieurs formulaires, des fois. Ouais. Les mêmes choses, il faut répéter parce que c'est d'autres ministères qui ne se parlent pas, là. Mais au milieu de la santé, c'est vraiment d'offrir les services en fonction des besoins des enfants puis des épisodes de service aussi, là, que ce soit intensif, là, pas juste... ponctuel. Là.
20 heures par année.
Quand on avait eu les services à l'école, là, on avait un orthophoniste qui avait été extrait Juliette, puis il voyait Juliette à chaque semaine, je me rappelle. Puis ça l'a pris un an pour y faire dire non.
Ouais.
Là, quelqu'un pourrait dire, ben, c'est de l'argent mal investi parce que ça a passé un an, puis elle a juste dit un mot. Mais si on n'avait pas fait cette année-là, après un an, elle n'aurait pas dit non. Là. Ça aurait peut-être pris 4-5 ans. Là. Puis c'est fondamental d'être capable de dire oui puis non dans cette communication.
Ben oui.
Puis Juliette, c'était beaucoup de petites bouchées à chaque fois. Ça a l'air simple de dire non, mais il faut placer la langue, il faut ouvrir les lèvres, il y a le son, l'air qu'il faut projeter d'une telle façon. Il faut avoir l'intention de le dire, puis musculairement, on le fait de la bonne façon.
C'est tellement complexe, on s'en rend pas compte.
Ça, nous, on parle, là, puis c'est tellement facile. Mais pour des enfants comme elle, c'est un gros combat.
Dans cette famille, la proche aidance n'est pas seulement l'affaire des parents. Loïc, 15 ans, et Delphine, 13 ans, jouent aussi un rôle auprès de leur grande sœur Juliette. Comment vivent-ils cette situation? Quel impact cela-t-il sur leur vie? Écoutons-les nous raconter leur expérience unique de frère et sœur d'une jeune fille aux besoins particuliers.
Alors là, je suis avec Juliette, la belle Juliette.
Oui.
Comment tu vas?
Bien.
Tu vas bien, hein?
Oui.
Oui, l'été arrive, t'es contente?
Oui,
papa. Puis il y a Delphine, puis Loïc qui est là.
Oui.
Loïc, toi, t'es arrivée en deuxième, t'as 15 ans.
Oui.
Puis Delphine, t'as 13 ans.
Ouais.
Moi, je suis curieuse de savoir. En même temps, je comprends aussi, là, mais vous autres, votre sœur Juliette a toujours été dans votre vie, elle était là avant vous-même.
Ouais.
Et c'est à quel moment dans votre vie que vous avez... Avez-vous eu un moment dans votre vie où vous avez constaté que votre sœur était différente, mettons?
dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué qu'elle n'était pas pareil comme les autres parce qu'elle n'avait pas le même comportement. Fait que ça, là. Puis aussi, elle faisait beaucoup de bruit. Elle pouvait pas, mais genre, il y avait des trucs qu'elle pouvait faire, mais pas comme les autres. Comme quand elle cuisinait, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'aide.
Un peu dans tout, en fait. Hein?
Ouais.
Toi, Loïc, t'es plus vieux, donc toi, t'es arrivé après. Toi, t'as-tu eu une période où t'as fait comme, OK, ma sœur est différente?
T'es arrivée, papa. Toi, t'es arrivée.
Ben, un peu, mais depuis que je suis jeune, et moi, elle fait. C'est comme si elle n'était pas en différence, parce que c'est comme ça que tu l'as vécu.
Elle est normale dans sa différence pour toi. C'est comme ta sœur, c'est comme ça.
Ouais, il n'y a personne qui est pareil.
C'est ça.
Tout le monde est différent.
Puis est-ce que pour toi, c'est-tu quelque chose que vous avez caché dans votre vie, le fait que votre sœur soit différente?
Moi, non. J'en ai parlé à mes amis qui sont avec moi tout le temps.
Ouais.
Puis quand ils viennent chez nous, ils l'apprécient beaucoup.
Puis tout le monde aime Juliette.
Ouais.
Ah oui, fait que toi, t'as jamais eu à vivre des amis qui te disent « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a ta sœur? » ou
non.
T'as pas vécu ça dans ta vie. On penserait, mais non, dans le fond, ça devient normal pour tout le monde. Hein? Toi, le X, ça a été comme ça aussi?
Ouais, alors, juste, tu y expliques un peu. Tu l'avertis d'avance. Souvent, parce qu'elle aime beaucoup ça, faire des câlins. Tu sais, juste, t'avertis d'avance, tu dis « Elle aime beaucoup ça, Fait que, juste pour pas que la personne soit surprise.
Il peut pas
l'avertir, fait que...
Fait que tout le monde a toujours été averti, tout le monde l'a déjà su. Est-ce que vous vous considérez des proches aidants? Vous connaissez ce terme-là, proche aidant?
Je connais le terme de proche aidant. Moi, je dirais oui. Parce que, vu qu'il est handicapé, il faut l'aider à faire des tâches que, normalement, une personne normal, il serait capable de faire. Oui, on l'aide dans la vie tous les jours, on l'aide des fois à monter marche, mettons, elle a des problèmes, des blessures, etc. On l'aide, on fait les tâches ménagères, on lui prépare son lunch, on l'incite à venir marcher.
Puis vous, pour vous, c'est normal. C'est pas une corvée. Bon, ça nous tente pas tout le temps, j'imagine, parce que des fois, on est fatigué puis on a moins d'énergie. Mais pour vous, ça fait partie de votre vie d'être le proche aidant de votre grande sœur.
Ouais, surtout que mon frère, c'est le matin, c'est lui, c'est tôt, parce que c'est toujours lui qui check par la fenêtre quand le bus... Juliette arrive, puis c'est surtout lui qui met Juliette dans le bus. Fait,
ça, c'est ta job,
pas mal. Le matin, c'est tout le temps ça. Je regarde quand le bus arrive. Quand le bus arrive, je vais la porter au bus. Je fais ça tous les matins.
C'est vraiment un travail d'équipe, quand même. Hein? Fait que vous aidez vos parents aussi beaucoup.
Oui, pour qu'ils puissent partir plus tôt, aller au travail, revenir plus tôt.
OK, wow. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, votre sœur, votre grande sœur, dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? En étant différente, justement.
À être tolérant, à savoir que des fois, c'est plus compliqué avec d'autres personnes que... Ça peut être plus compliqué.
Plus compliqué pour certaines personnes versus d'autres personnes.
De dire... de vouloir le faire aussi... permettre de... Ça nous permet d'ouvrir notre esprit, d'être prêt à tout.
D'être ouvert au changement. Hein?
Oui.
C'est ça, l'imprévu. Oui. Parce que des fois, il peut y avoir des imprévus, puis ça change les plans complètement. Fait qu'il faut comprendre.
Oui.
Est-ce que vous diriez que ça vous a donné plus de maturité dans votre vie?
Moi, pas vraiment, parce que...
T'étais déjà mature.
J'étais quand même... Quand j'étais jeune, même quand j'étais au primaire, j'étais beaucoup affectueuse avec les autres. Puis quand, mettons, il se passait quelque chose, j'étais toujours là pour les accompagner dans leur phase. Fait que moi, j'étais habituée à faire ça tout le temps.
C'est ça. Ça t'a donné beaucoup de sensibilité, d'ouverture, de tolérance. On disait, ça apporte ça, hein, de sensibilité.
Ouais.
Et quand vous voyez quelqu'un, j'imagine, peu importe, un adulte, un enfant qui est en difficulté ou qui a besoin, vous autres, vous l'avez l'instinct d'aller aider. Hein? Puis vous le propagez en plus, fait que vous êtes un bon exemple. Delphine, il paraît que toi aussi, tu sais, Loïc, qui disait que lui, ben, tous les matins, c'est l'autobus, il la prépare, il s'assure, il va la reconduire à l'autobus. Toi, tu dirais que c'est quoi tes tâches ou les activités que tu... mettons, les responsabilités que tu as ou que... Parce qu'il paraît que toi, très jeune, là, tu t'es impliquée naturellement auprès de ta sœur.
Ouais. Généralement... C'est quand les parents sont pas là, c'est surtout moi qui s'occupe d'elle puis qui fait les activités avec elle, pour la divertir, tout ça. Aussi, ben, quand on s'en va faire de l'hygiène, c'est surtout moi qui va le faire pour laver le corps, aller chercher son pyjama,
laver
le matin. C'est surtout moi qui fais ça.
Mais ça t'est venu naturellement ou tes parents t'ont dit, ben toi Delphine, tu vas faire ça?
Non, c'est surtout naturellement.
Comment ça, c'est arrivé ça? Puis t'étais jeune, il paraît, quand tu faisais ça.
Oui, j'étais très jeune, mais j'étais aussi, on était beaucoup ensemble quand j'étais jeune, là, on s'aimait beaucoup. Puis quand je vais dormir parfois, quelque part d'autre, elle veut toujours que je reste avec elle et comme Delphine, tu vas dormir où? Delphine, reste avec moi.
Mais il paraît que vous dormez encore ensemble.
Oui.
Comment ça?
Parce que on a juste 4 chambres.
Ouais.
Puis on n'a pas beaucoup de place, mais aussi on est bien ensemble dans le lit, on est confortable. Puis
ça fait longtemps que tu dors avec ta sœur. Ah oui, parce que tu sais, rendu à ton âge, tu pourrais dire non, moi je veux ma chambre à moi tout seul, puis ce serait normal, mais pas toi.
Non.
T'as du fun avec ta sœur. Toi, t'aimes-tu ça faire dodo avec Delphine?
Oui.
Dans le même lit?
Oui.
Dans la même chambre?
Oui.
Ça dort mieux, hein?
Oui.
Mais oui, c'est quand même génial.
Oui.
Puis c'est quoi, donc toi, c'est au niveau que tu dis de l'hygiène, tout ça, tu vas jouer avec elle, mais ça, vous partagez aussi cette... tâche, là, c'est pas une tâche, mais vous faites ça ensemble aussi.
Ouais.
Toi, t'as parlé du partage des activités.
Elle est quand même chanceuse de vous avoir. Hein?
Oui.
Considérez-vous que vous êtes chanceuse de l'avoir?
Oui.
Oui.
Belle pays.
Elle vous a appris plein de choses, votre soeur. Hein?
Oui. Et surtout ça.
C'est précieux.
Oui.
L'école joue un rôle essentiel dans la vie de Juliette. À l'école Joseph-Paquin, spécialisée pour les élèves ayant des besoins particuliers, Martine Perrault est bien plus qu'une enseignante. Elle accompagne les jeunes comme Juliette dans leur parcours scolaire. Comment adapte-t-elle son enseignement pour répondre aux besoins spécifiques de ses élèves? Quel lien a-t-elle tissé avec Juliette et sa famille au fil des années?
Ça rappelle toujours des souvenirs quand on est dans des écoles comme ça, là.
Ben oui, mais nous ici, là, c'est particulier parce que les locaux sont quand même petits. On n'accueille pas des groupes de
non, je voyais votre classe. Oui, oui.
Je pense qu'il faut se passer vers la gauche.
Oui, on va rentrer dans notre pièce. Martine Perrault, merci de nous accueillir dans votre école.
Ça me fait plaisir.
Oui, vous êtes enseignante ici à l'école spécialisée Joseph...
Paquin,
exactement. Oui. Parlez-nous de cette école-là. Mais avant, je veux juste vous dire, j'ai su que vous étiez là depuis... presque 30 ans!
Oui. Oui, moi, en fait, je suis ici. Quand j'ai connu le milieu, tout de suite, j'ai dit, c'est ici que je veux faire ma vie professionnelle. Là.
C'est formidable. Ouais. Ça, le veut pas, c'est formidable pour les familles aussi, pour les enfants, parce que ça crée une stabilité.
Oui, nous, on accueille des jeunes de 5 ans jusqu'à 21 ans.
Oui.
Donc, on voit évoluer nos élèves, on les voit grandir, on voit leurs défis, on voit leurs progrès. Donc ça, c'est une grande richesse de notre milieu. Puis, on est une équipe assez soudée, je vous dirais, au niveau enseignants. On a une équipe plutôt stable. Il y a toujours un peu de mouvance en début de chaque année pour combler des nouveaux postes et tout ça. Mais il y a un noyau dur, je vous dirais, qui est formé dans l'école au niveau des enseignants et aussi des techniciennes en éducation spécialisée.
Bien, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que les gens qui travaillent ici sont bien, sont heureux.
Oui. Ceux qui passent et qui restent, c'est parce qu'ils ont l'appel, ils ont la vocation de travailler avec une clientèle à besoins particuliers.
Parlez-nous de cette école-là. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On est en lien avec l'histoire de Juliette, évidemment, oui. qui est arrivée ici, genre, à l'âge de 4 ans.
Oui.
Et là, elle a 18 ans. Oui. Fait que vous l'avez vraiment vu de petit oui. bébé, là, oui. à jeune adulte aujourd'hui.
Oui, tout à fait. On est une école à mandat régional et suprarégional. On accueille deux...
Qu'est-ce que ça veut dire, supra?
Ça veut dire qu'on couvre tout l'Est du Québec okay. en ce qui a trait à la surdité. Donc, on accueille des enfants sourds, mais qui ont des troubles associés, qui ont d'autres choses. On ne parle pas d'un enfant uniquement sourd qui peut être intégré au régulier avec du support,
oui.
une interprète ou quelque chose du genre. Nous, on est avec des enfants qui ont possiblement une surdité, mais avec d'autres problèmes oui. associés, d'autres troubles associés, ou des enfants qui ont un diagnostic de trouble du langage sévère.
Puis vous, en plus, c'est que vous étiez, vous, la surdité... C'est quelque chose qui vous passionne.
Oui,
qui...
ouais, ça a toujours été...
Pourquoi? Ça vient d'où, ça?
Je ne sais pas d'où ça vient. À l'université, j'ai suivi un cours de français signé. Ça a été comme ma première approche au monde des sourds, si je peux dire. Et puis ça, ça m'a fascinée. Ça a fait comme, oh wow, là, on vient d'ouvrir une porte. Ça me fascinait. Et puis quand j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici... J'ai dit, c'est sûr que je veux travailler ici, c'est mon milieu, là, c'est... Puis, de travailler dans un milieu spécialisé comme ici, moi, je trouve comme enseignante, c'est hyper stimulant, parce qu'on a une équipe multiple, avec plein de professionnels
ouais.
avec nous, c'est ça que je voulais dire.
Ouais.
Donc, c'est pas juste des enseignants avec quelques éducatrices spécialisées, il y a beaucoup d'éducatrices spécialisées. On a une psycho-éducatrice, on a une neuropsychologue et on a une TES école. On a des orthophonistes, on a une ergothérapeute. Donc, quand ça vient le temps de s'asseoir puis discuter d'un cas à un élève qui vit une problématique, peu importe quoi, on s'assoit tout ce beau monde-là ensemble.
Ouais, tout le monde intervient. Ça, oui. c'est une grande richesse.
Là, hein? c'est une richesse parce ouais. que là, tout le monde apporte un peu sa couleur, son expertise. On se donne des plans de match. On se revoit un mois plus tard. Et ça, je trouve ça ultra stimulant. Mmh. Comme enseignante, c'est vraiment stimulant.
Il y a combien d'élèves ici par année, là, en général, en
là,
moyenne?
Présentement, là, cette année, on est à 70 élèves environ. C'est un tout petit milieu. Hein? Là, je ne veux pas faire d'erreur, mais environ 15-16 enseignants, 12 groupes, en fait, d'élèves. Donc, ça donne un petit peu une autre idée, là, la grosseur des groupes. Moi, j'enseigne cette année à titre indicatif d'un groupe de 5 élèves.
Et fait que vous, dans votre classe, vous avez 5 élèves.
J'ai 5 élèves, il y a moi et j'ai 2 éducatrices spécialisées à temps plein avec moi.
3 pour 5?
Oui.
Hey, ça, c'est quand même extraordinaire.
Oui, c'est que on sait quand les jeunes sont admis ici, c'est qu'il y a des besoins. Ils ont besoin à peu près à tous les niveaux.
Ouais.
La problématique majeure, c'est le trouble du langage ou la surdité avec d'autres diagnostics. On dit souvent qu'on travaille en comorbidité dans les diagnostics, car c'est des enfants souvent qui ont des diagnostics très longs.
Okay.
Donc, cette année, on est environ, c'est ça, 70 élèves, 15-16 enseignants, peut-être un petit peu plus, mais parce qu'on a des enseignants spécialistes aussi.
Mais c'est ça, parce que l'école Joseph-Paquin, vous avez 2 spécialités.
Oui,
vous spécialisez dans 2 domaines.
Oui, c'est ça, surdité
et langage.
Et trouble sévère du langage.
Ah, du langage, c'est
donc,
ça.
Donc, on est une école, là, notre vocation, c'est la communication totale. Nous, ce qu'on veut quand un jeune rentre ici, c'est développer sa communication sur tous les niveaux. Et nous, on prend tous les moyens possibles pour développer la communication. On commence par la parole. On parle toujours avec nos élèves, c'est sûr. Quand on enseigne, quand on interagit avec eux, on communique en signes aussi. Moi, j'ai l'habitude, quand je travaille, je fais toujours des signes avec mes élèves. On utilise le mime. On utilise les pictogrammes, les images, on en voit un petit peu ici dans le local. On utilise l'écrit, on a des TNI, des TBI, les tableaux blancs où on projette des images.
Donc, interactif, tableau blanc, interactif,
c'est ça. On utilise l'écriture, la lecture, tous les moyens possibles pour communiquer, les outils de communication. On a des élèves qui ont des iPads adaptés avec des outils de communication, mm-hmm. avec des phrases préconçues dans leur tablette pour pouvoir communiquer. Donc, c'est notre mandat, c'est de développer la communication avec nos élèves.
Et les 0 à 21 ans?
4, 5 ans.
4-5. C'est vrai parce que Juliette est arrivée à 4 ans.
Oui, c'est vrai. Jusqu'à 21 ans, nos élèves cheminent avec nous.
Parlons-en de cette merveilleuse Juliette.
Oui. Elle est attachante.
Ah, elle est vraiment attachante. Oui. Tantôt, d'ailleurs, vous me disiez, le casse-tête qui est là, là c'est son casse-tête.
Oui.
Parlez-moi, parce que vous êtes tellement un bon témoin, en fait, de son évolution. Il y a eu une petite période où vous n'étiez pas auprès d'elle, mais là, vous êtes revenue, là.
Oui, c'est ça.
Cette dernière année.
C'est ça. En fait, moi, j'ai connu Juliette, là. Elle a fait, je crois, 2 ans à la maternelle ici. Et après, elle a intégré les classes, qu'on dit nos classes de premier cycle, où là, elle commence plus les... ce sont des classes où on entame le cheminement scolaire, les apprentissages scolaires, français, mathématiques et tout ça. C'est commencé à la maternelle, mais disons qu'on y va plus de l'avant à ce niveau-là.
Donc, dans cette école-là, on va faire des maths, on va faire du français, de l'histoire.
On fait de l'histoire, l'univers social. On fait éthique et culture religieuse, qui va changer l'an prochain pour un nouveau... ça sera un nouveau programme. On fait des sciences. On fait...
Adapté à chaque enfant, en fait, hein, c'est ça. Hein?
Oui, parce qu'on utilise, nous, le programme de formation de l'École québécoise, le PFEQ, là, qu'on appelle dans notre jargon, mais on va toujours modifier les objectifs pour les mettre au niveau de chaque élève et les amener le plus loin possible dans l'année scolaire. Donc, c'est le travail du titulaire, comme moi, c'est ce que j'ai fait. En début d'année, j'ai produit un plan d'action pédagogique.
Okay.
Pour chacun de mes élèves. Et là, je vais piger des objectifs dans le programme, dans les programmes avec lesquels on travaille. Ça dépend de leur âge, ça dépend de leur cheminement, de leur évolution, de leur diagnostic aussi.
Hein,
c'est ça. Et puis là, je vais cibler des objectifs pédagogiques avec chacun de mes élèves. Et ça fait la base pour travailler après, pendant l'année.
Parlez-moi de Juliette.
Juliette...
Quand on pense à elle aujourd'hui, là, elle a 18 ans... Mm. Vous l'avez connue à l'âge de 4 ans.
Oui,
c'est ça. Vous l'avez vu évoluer, là. Vous avez vu ses défis, ses difficultés, ses grandes réussites, j'imagine.
Oui.
Qu'est-ce que vous me diriez, pourriez me dire de Juliette?
Moi, je trouve que j'ai retrouvé Juliette cette année, parce que ça faisait quelques années que je ne l'avais pas eue dans ma classe, mais je l'ai eue à l'âge de 7-8 ans. Après ça, je l'ai eue quand elle a intégré l'étage secondaire ici à 13-14 ans. Et je l'ai retrouvée cette année à 18 ans. Et c'est la première chose qui m'a frappée quand je l'ai vue cette année, et puis je l'ai dit à mon équipe, là, à mes TES, dans ma classe, « Wow, quelle belle évolution
pour
Juliette! » Juliette, elle a acquis une maturité, elle a développé son langage, sa communication, elle s'est beaucoup améliorée avec les
années. Parce qu'elle ne parlait pas petite, là.
Non.
Elle parle, Juliette?
Oui, elle parle. On voit là, qu'il y a un travail énorme qui a été fait avec Juliette, tant au niveau scolaire que familial, dans toute...
Sociale, hein?
Sociale, dans toutes les
sphères. Elle était bien excitée quand elle nous a vus arriver ce matin. Puis en même temps, elle a un côté très posé. On était dans la maison, on n'était pas avec elle pendant un certain moment, puis elle était dehors, puis moi, on se disait, mon Dieu, elle est où? Elle était assise avec son frère et sa sœur. C'était vraiment magnifique de voir ce niveau d'évolution-là.
Oui, tout à fait. Puis c'est ça, moi, c'est ce qui m'a frappée en début d'année, cette année, de retrouver une Juliette quand même calme, posée, qui est capable de rester à sa place, qui écoute les consignes, qui suit très bien le rythme du groupe. Ça, c'est génial. Là. Elle a vraiment, vraiment bien évolué. Juliette, elle a encore des défis à relever. Je pense que toute sa vie, elle va avoir des défis. Mais nous, on l'accompagne dans la réalisation, dans son accomplissement en tant que personne.
Puis l'idée, c'est qu'elle ne perde pas ses repères. Je veux dire qu'elle ne perde pas ses acquis. Elle a travaillé fort, là, je veux dire.
Oui.
Puis en même temps, est-ce que vous diriez, ben, de toute évidence, Martine, mais j'imagine que le lien aux familles, aux parents...
Oui.
Ça, pour moi, là, c'est de l'or, quand vous pouvez établir ça.
Oui, puis pour moi, là, en tant qu'enseignante, là, c'est ultra important. C'est cher à mes yeux d'établir une relation de confiance, de complicité.
D'être sur la même page.
Oui, avec les parents, avec la famille, parce qu'on partage une partie de la vie de leur enfant.
Ben oui, vous faites partie un peu de la famille.
On fait partie de la famille, c'est l'extension de la famille. Quand l'enfant arrive ici, c'est nous, sa famille. Donc, nous, c'est important que l'enfant soit bien, il soit compris. Moi, je ne laisse jamais une interaction, un message qu'un enfant me dit dans la classe sans que je le comprenne. Je vais le faire répéter, fais des signes, montre-moi quelque chose, je veux te comprendre, qu'est-ce que tu m'as dit? c'est vraiment notre mission première, de comprendre nos élèves, développer leur communication. Donc, pour nous, c'est vraiment là, c'est vraiment ce qui compte.
C'est la base, la plus grande richesse, c'est ça, parce que... Et j'imagine que vous communiquez régulièrement avec les parents.
Les parents,
diriez-vous que c'est quotidien ou presque?
Quasi quotidien, quotidiennement. Si c'est pas avec les parents de Juliette, ça va être les parents d'un autre élève, mais à toutes les semaines. Je vous dirais qu'à tous les jours.
Courriel, téléphone.
Moi, c'est principalement courriel. Quand il y a une urgence ou il y a quelque chose, là, vraiment, il faut régler tout de suite, là, j'appelle. Je n'hésite pas d'appeler aussi. Mais je vous dirais, dans la majorité du temps, là, c'est des courriels, puis on communique très bien là, de cette façon-là.
Vous faites quoi, Martine, quand il y a des parents qui, justement, ils ont comme... Parce qu'il y en a, là, on va être honnête, qui n'ont pas compris le principe, en fait, qu'il faut créer des liens, puis il faut être sur la même page, puis il faut être constant dans notre façon de faire.
C'est sûr que...
Ça doit être difficile, ça.
C'est très difficile. Puis notre travail, c'est sûr que ça alourdit à ce moment-là, parce que le pont entre les deux milieux de l'enfant ne se fait pas. Donc, c'est sûr que ça alourdit.
Puis l'enfant en souffre. C'est l'enfant, en
c'est
fait,
toujours ultimement. L'enfant. C'est toujours l'enfant qui paye. Parce que on réussit pas à faire de lien entre les deux milieux, donc il y a des bouts qui se perdent en chemin. Donc c'est sûr que pour nous c'est un défi, mais oui effectivement ça l'arrive. Puis moi personnellement je n'en veux pas aux parents, je n'en veux pas aux familles avec lesquelles je travaille, parce que je dis souvent nos familles ce sont des familles endeuillées d'un enfant qui ne répondra pas à la norme de la société, qui va toujours avoir des besoins spécifiques.
Et puis c'est un grand deuil.
Ouais. Ça, un deuil, là, ça se fait par étapes. Ça se fait pas d'un coup sec. En 6 mois, c'est réglé, on passe à un autre appel.
Puis des fois, ça se fait jamais.
Puis des fois, ça se fait jamais. Moi, j'ai des enfants de 18 ans dans ma classe, puis on travaille encore beaucoup avec les parents à ce niveau-là. Puis c'est des petites marches à la fois.
Boris nous racontait ce matin que ça a pris genre 1 an pour qu'elle dise non, Juliette.
Mm-hmm.
Imaginez, 1 an pour dire, puis tu sais, c'est quand même un mot important, non.
Mm.
Non, ça veut dire mes limites, ça veut dire plein d'affaires.
C'est ça, effectivement.
Fait qu'imaginez, tu sais, c'est...
Tout est un défi pour les familles d'enfants comme Juliette. Tout est un défi, l'intégration sociale, les loisirs, la famille... Je sais que Juliette, elle vient d'une famille ultra-inclusive.
Mmh.
Elle est bien entourée, les grands-parents, les tantes, les amis, les oncles.
Incroyable, les amis, nous en avons parlé, là.
Oui, c'est un milieu exceptionnel. Ouais. Mais tous n'ont pas cette chance.
C'est ça. Parlez-moi d'une journée type, Martine. Ici, là, comment ça marche? Les enfants, ils arrivent genre à 8h, 8h30. Ouais. C'est quoi l'ordre d'une journée? Mettons pour Juliette, là, ça ressemble à quoi
Juliette,
sa journée?
Juliette, elle arrive à 8h à l'école par son transporteur scolaire qui la laisse ici. Donc, elle arrive à l'étage, à son casier. Elle a son espace à elle. Elle se déshabille. Elle défait son sac d'école, boîte à lunch, iPad et... son agenda, sa collation. Elle a tous des endroits là, désignés ici, là, dans le corridor. Pour Puis Juliette est rendue super bonne pour ça. Là. Ça, c'est un très bel acquis.
Mmh.
Elle fait toute sa routine. Après ça, on rentre dans la classe.
Et là, puis, comme sa classe est juste de l'autre côté.
Elle est juste ici, en face. C'est ça. Okay. Donc, elle rentre dans la classe avec ses 4 autres copains de classe. Et puis, on a des journées qui ressemblent à l'école. Là. On fait du français, on fait des mathématiques, on fait... On marche beaucoup par projet. Moi, à chaque semaine, je fais de la cuisine avec mes élèves parce que dans le programme pédagogique que j'utilise avec Juliette, il y a des périodes de formation personnelle et sociale. Et nous, on a ciblé dans ce cours-là de faire de la cuisine avec les élèves. Et le but ultime là, dans tout ça, là, c'est de développer l'autonomie des enfants. Oui. C'est ça qu'on veut, nous, qu'ils soient autonomes dans toutes les sphères de leur vie, pour qu'ils soient fonctionnels autant que possible, pour les amener à leur plein potentiel.
Leur indépendance.
Oui, là où chacun peut se rendre. Et c'est variable d'un élève à l'autre. Ça, on en est conscient. Mais nous, on veut les tirer vers le haut autant que possible.
Ben oui.
Donc, la cuisine, c'est un merveilleux monde pour apprendre.
Les textures, la dextérité, utiliser des instruments.
Quand on s'apprête à faire une recette, moi, je travaille ma recette dans la classe avec eux. On lit tous la recette ensemble, donc on apprend du vocabulaire, on apprend nos fractions, on apprend...
Une tasse, une demi-tasse.
Oui, c'est ça, un quart. Juliette est super bonne, un tiers, un quart, une demi, elle identifie tout ça. Oui, elle est vraiment bonne.
Y a-tu de la chicane, des fois?
De la chicane entre les élèves?
Oui.
Ça peut arriver, mais pas dans mon groupe.
Mais c'est que, en général, on pourrait-tu dire que c'est assez rare?
C'est assez rare.
Parce que chacun aussi est dans son monde et est concentré.
Mais c'est étonnant. Il y a beaucoup d'interactions entre les élèves. Oui, parce qu'ils sont d'un niveau qui se ressemble. Donc oui, il y a de l'interaction. Puis
de l'amitié.
Beaucoup d'amitié, puis même, j'allais dire, de l'entraide.
Ah oui, hein?
Oui, oui, Juliette, là, elle a un copain de classe, là. Juliette, elle a son petit trépied, là, qu'on lui met sous les pieds pour, parce qu'elle n'est pas très grande. Mais ma table de commune pour faire des activités de groupe en classe, elle ressemble à celle-ci. Puis là, Juliette, elle se retrouve les pieds dans le vide sous la table. Donc, je lui mets un trépied.
Okay.
Puis là, son ami, là, lui, là, dès que Juliette, elle change de place, on se tourne pour faire notre horaire au tableau. Il lui prend son trépied, lui apporte. C'est un gentleman. Mais les élèves ont beaucoup d'entraide entre eux. C'est vraiment beau.
Compassion humaine, oui, l'autre vraiment. Existe.
Puis, il y a beaucoup de... Sans qu'ils s'en rendent compte, il y a beaucoup de respect entre eux. Chaque enfant ici est différent. Chacun a ses défis, chacun a ses forces. Et nous, on travaille beaucoup sur les forces des élèves aussi.
Il faut qu'ils gagnent, hein?
Oui.
Faut qu'ils soient gagnants, ces enfants-là. Oui. Des réussites, hein? Ils ont besoin de ça. Ben oui.
Donc, ça, il y a beaucoup de respect. Là, puis on ne tolère absolument pas de voir un enfant rire d'un autre enfant. Là. C'est pas quelque chose qui est très présent là, dans notre milieu. Puis là, je parle de ma classe, mais on pourrait extrapoler là, pour tous les groupes. Là.
Wow!
Oui, donc... c'est ça. Donc, on fait du français, on présente l'horaire de la journée. Après ça, on va faire une période de français. Moi, j'aime bien écrire la phrase du jour que j'appelle. Donc, on va chercher du vocabulaire qui est connu, puis des fois qui est moins connu, la part des élèves. Juliette, elle a une mémoire photographique. Donc, quand elle apprend un mot, elle le met là, puis elle le sait à la vie, à la mort, comme vos noms.
Oui, puis son frère et sa sœur, ce matin, on a chanté des chansons, puis disait que une chanson, là, elle va l'essayer deux fois, puis ça y est, c'est gravé... À la C, là, pour toujours.
Elle va tous vous rencontrer dans 2 ans. Elle va toutes savoir vos noms.
Ah oui, c'est incroyable, ouais, ça aussi.
Parce que Juliette, elle est comme ça, elle enregistre et ça reste là. Donc, elle est bien meilleure que moi. Donc, on fait ça. Notre phrase du jour, donc, on va travailler la structure de phrase, le français, le vocabulaire, les signes. Les signes, on apprend, j'enseigne des signes tous les jours avec mes élèves. Après ça, on a une journée type, deuxième période, on s'en vient ici aux ateliers. Là, c'est l'enseignante spécialiste d'ici qui prend la charge du groupe pendant que moi, je me retrouve comme tout enseignant en période libre pour préparer du matériel
et des périodes. C'est ça, pour le lendemain, puis après, oui.
Oui, c'est ça. Donc, ici aux ateliers avec Guylaine,
Oui, puis on est là, puis j'ai plein d'affaires devant moi, fait que j'aimerais ça vous montrer. Ça, c'est tout des projets,
c'est des
ateliers.
Projets, c'est du matériel.
Que Juliette fait, auquel elle participe.
On fait affaire, nous, avec différentes entreprises de la région de Québec qui collaborent avec nous pour qu'on puisse développer des ateliers intéressants avec nos élèves.
Okay.
Et le but de ça, c'est de, à la fin de la scolarité des élèves, à 21 ans, c'est d'optimiser leur intégration socio-professionnelle. C'est sûr qu'on ne parlera pas là, de... Ils n'iront pas sur le marché du travail comme vous et moi. Non. On le sait, c'est une évidence.
Mais il faut créer ça aussi. Mais il y a une suite à ça. Là.
Oui, c'est que nous, on veut que nos jeunes soient intégrés après l'école. Parce que c'est un gros morceau là, dans leur vie,
c'est
l'école.
C'est une grosse étape. Là.
Puis là, à 21 ans, là, il y a beaucoup de parents qui vivent de l'angoisse. C'est angoissant là, de savoir que le service qu'ils ont à tous les jours, 5 jours semaine, de 8 heures à 3 heures, n'existera plus pour leur enfant. Donc, c'est un grand vide. Et nous, on veut préparer du mieux qu'on peut les jeunes à leur sortie de l'école, dirigés à différents endroits selon leur capacité, leur niveau d'autonomie.
Qu'ils peuvent trouver un travail. Il y en a des intégrations qui se font dans des compagnies.
Oui, on a des élèves d'ici qui travaillent dans des McDonald's, exact. Dans des Dolorama, dans des magasins.
On les voit, bien sûr.
Oui, c'est ça. Mais il y en a pour qui ça ne sera pas possible, parce que leurs défis sont plus importants. Mais nous, là, ce qui nous intéresse, là, c'est de développer leurs compétences au meilleur de leurs capacités. Donc, les ateliers que Guylaine développe ici, là, c'est à différents niveaux, à différents paliers, puis c'est pour amener vraiment les jeunes vers le haut pour le jour où ils vont nous quitter, ils soient le mieux outillés possible pour se faire une vie sur le marché du travail ou socio-professionnel. Oui, on fait du français, des mathématiques et des sciences. Mais on amène nos élèves vers autre chose aussi. On a une clientèle spécialisée. C'est sûr qu'il faut les amener vers ce qui sort un petit peu du cadre régulier.
Exact.
Ensuite...
Ça, c'est quoi, là, les trucs, oui, des attaches pour les pains, là?
Ça, c'est intéressant. C'est avec la compagnie Bug Burn. Vous savez, le magasin là, de vrac?
Oui.
Donc, eux, ils mettent ce genre de petits contenants-là là, dans leurs allées,
oui,
pour que les clients puissent écrire avec un petit crayon plomb.
Quand on achète en vrac.
Sur l'étiquette, oui, c'est ça, le numéro de l'article, oui, qu'on achète et attacher le petit sac. Puis ça, là, c'est un travail qui est très long, de mettre ça dans des plats, comme ça, tout bien placé pour optimiser. Là, vous voyez, on en voit en chantier ici, oui, là. Alors, les élèves, là, eux, ce qu'ils font, là, on met là, une poignée d'attaches dans une boîte. Et puis, là, ils ont...
Ils mettent tout un par-dessus, oui, l'autre,
un
bien
aligné. Un par-dessus l'autre. Guylaine utilise des crayons comme ça. C'est juste un outil de travail, dans le fond, pour faire un appui, pour quand on ajoute une petite attache, ça reste bien appuyé et que ça ne bouge pas. Ça, je crois que Juliette en fait un petit peu de, ouais, ça, oui, aussi. Donc, on aide les entreprises Bug-Burn. C'est sûr que nous, il n'y a pas d'argent relié à ça. Là. C'est un travail, pour nous, c'est un travail d'atelier. Mais ça, ouais, les amène à se concentrer, à développer leurs compétences en vue, peut-être qu'ils vont être appelés un jour dans un atelier protégé, après leur scolarité, à faire un travail qui va ressembler, ouais, à ça.
Absolument.
Donc, c'est des exemples. Ici, on fait du lavage à l'école. En bas, on a la cuisine, puis on a une salle de lavage. Alors, ça, c'est toutes les guenilles, les débarbouillettes.
Plier les guenilles.
Qu'on utilise, que tous les enseignants utilisent dans leur classe, hein, pour différents besoins. Donc, à chaque semaine, les élèves ramassent les guenilles sales, mettent ça dans un panier, ils emmènent ça en bas. Juliette a fait du lavage des fois à l'école et puis ils reviennent ici avec ce qui est lavé, séché et puis on plie les débarbouillettes. Donc, on fait du pliage. Ça, c'est un autre genre de travail que les élèves peuvent faire. Cette année, on a développé un beau projet, c'est notre friperie éducative. En fait, juste ici, en face de l'école, il y a une église, l'église Saint-Jérôme. Et depuis plusieurs années, il y a une friperie au sous-sol de l'église, mais qui était un petit peu, qui avait besoin d'amour, je dirais. Et puis, l'école a eu l'idée de reprendre un petit peu l'organisation de la friperie et d'en faire une friperie éducative. Donc, moi, mon groupe, à chaque semaine, de une à deux fois semaine, on s'habille, on traverse la rue, puis on s'en va travailler à la friperie. On fait du triage de vêtements, on plie des vêtements.
Des t-shirts, des blouses, des pantalons, voilà, des hockey.
Est-ce que tu penses que c'est pour une fille ou un garçon, ce vêtement-là? Est-ce que c'est pour un adulte ou un enfant? Donc, on développe un petit peu la réflexion derrière tout ça, les méthodologies de travail. On met sur les cintres. Et après, il y a un autre groupe d'un autre programme, qui sont un petit peu plus vieux, en toute fin de scolarité, qui, eux, prennent des rendez-vous, ils vont vendre des vêtements à la collectivité, les gens qui veulent aller magasiner à la friperie. Ils prennent un rendez-vous en ligne, des élèves de l'école avec un enseignant qui quitte et qui vont rencontrer les clients et qui vendent.
Ça fait d'eux un peu des gens d'affaires, hein, oui, être en affaires, puis comment ça fonctionne.
C'est montrer comment, ouais, ça fonctionne, là, la société, la vie et tout ça. Donc ça, c'est un beau projet aussi là, qu'on développe cette année. C'est encore... Je dirais pas embryonnaire, là, parce qu'on déjà là, on vend des choses, mais il y a eu beaucoup de choses à mettre en place, à mettre ça un petit peu à notre main, développer des espaces de travail, mais on y arrive.
Diriez-vous, Martine, j'en peux dire oui de toute évidence, mais diriez-vous que l'école elle-même, là, le monde, les enseignants, l'équipe, là, il y a beaucoup de soi. Vous, oui, dites, là, l'Église, c'est pas le gouvernement qui vous a, non, dit vous allez faire ça. Vous, non, vous le savez que ça existe, vous avez dit... Ça serait un beau projet,
ouais,
pour nos jeunes.
Oui, oui,
parce qu'il y a beaucoup de soi dans
beaucoup
chaque...
Beaucoup d'investissement personnel, oui, dans
c'est
ce
plus
qu'on
que...
fait. Oui, 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 on déborde souvent. On dit souvent à la blague, oh, ça, c'est une tâche connexe.
C'est ça.
C'est une tâche connexe.
On porte plusieurs, oui, chapeaux, puis il y a plein, oui, de tâches connexes. Martine, parlons de la fin, justement. Là. D'ailleurs, Juliette, on en arrive là ou presque. Elle a 18, oui, ans, il lui reste 3 ans, oui, pour terminer sa scolarité ici. Après... C'est un peu le néant, ouais, si on veut. Et j'imagine que pour des parents, là, quand ton enfant est ici depuis l'âge de 4 ans, puis Boris, il nous le disait, là, tu sais, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu dis, oh mon Dieu, on a encore bien du temps. Mais quand tu arrives à cette étape-là, ouais, vous avez été témoin beaucoup, ah, oui, de ça, vous, dans votre, oui, parcours.
Moi, j'ai vu des parents là, en rencontre là, de plan de service. Hein. Chaque élève a un plan de service, puis, ouais, on le révise à tous les ans. Des parents arrivés, puis... un peu en panique, un peu en pleurs, au plan de service. Écoutez, là, moi, je suis pas prête à ça. Là. Mon enfant, il lui reste seulement 2 ans ici, là, mais qu'est-ce que je vais faire? qu'est-ce qui m'attend, moi, dans l'avenir avec mon enfant qui a des besoins que je ne peux pas laisser à la maison, que c'est une source incroyable d'inquiétude et de stress
pour nous. Et qu'est-ce que vous leur répondez?
Bien, nous, c'est sûr là, qu'on enclenche là, toujours le processus là, de la TVA, là, la transition de l'école vers la vie adulte. Et puis là, à ce moment-là, on fait appel au CIUS, aux intervenants de la structure plus sociale qui va venir. Nous, on veut présenter l'élève. Puis là, on dit, ben écoutez, quelle avenue on peut trouver? On travaille avec eux.
C'est ça, fait que vous pouvez les accompagner dans
oui,
ça. Hein?
Oui,
on puis
les
accompagne. J'imagine que ce n'est pas quelque chose qu'on fait 3 mois avant. Là. Ça se prépare 2, 3... Oui. Tu sais, comme là, je suis là-dedans, oui. Là, Boris et Brigitte. Hein?
On essaie, nous, en tant que milieu scolaire, de commencer bien avant la dernière année.
Oui.
Mais des fois, on rencontre des obstacles sur notre parcours parce que nous, on a une façon de faire, le milieu scolaire, mais le CIUS a sa façon de faire aussi. Et souvent, on se fait dire par le CIUS, « Non, tout, attention, là, on est trop vite. Là, il reste 18 mois de scolarité à l'élève. On ne peut pas tout de suite parler de okay. dans quel milieu il peut être intégré. Nous, on commence à 6 mois avant la fin de sa scolarité, mm-hmm. par exemple. » Mais nous, on s'insurge contre ça, là. On dit, « Mais non, mais là, il faut commencer avant. » Puis on leur
fait que c'est d'informer les parents aussi. Oui. Vous êtes là pour ça, pour dire, avez-vous réalisé qu'il vous reste oui. un an ou 18 mois? Oui,
en ça, c'est sûr qu'on le dit aux parents, ouais. puis la plupart en sont conscients.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'il y a un c'est petit sûr. Peu, des fois, une panique là, qui s'installe.
Mais je pense qu'on doit y penser tout le temps, hein? Oui. L'après, le futur, quand on ne sera oui. plus là, et ainsi de suite.
Et
là,
les ressources qui viennent après, malheureusement, contrairement à l'école, où c'est 5 jours semaine, selon le calendrier scolaire, oui, il y a des journées pédagogiques ouais. et tout ça, là, mais... C'est du temps plein. Les ressources, après, ne sont jamais à temps plein. Donc, comme Juliette, elle va peut-être être appelée à être à 2 jours semaine ici à la Maison des adultes, peut-être. Une journée dans un atelier protégé à quelque part. Puis, oups, une ou 2 journées. Ah, là, pour ça l'instant, flotte. On n'a pas de ressources. Ça, c'est la réalité des parents quand, ouais. quand leur enfant quitte l'école. Donc, c'est sûr que c'est une très grande source de stress ouais. et d'angoisse. Puis, ça se comprend. Puis nous, en tant qu'équipe école, on veut accompagner le mieux ouais. possible aussi les familles.
C'est rassurant.
Dans
c'est
ça. Rassurant. Mais c'est sûr que malheureusement, on n'a pas toutes les solutions.
Non, non. Avec votre expérience, Martine, ça fait quasiment 30 ans là, que vous êtes là-dedans. Quand on regarde là, les services sociaux, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, tout ça, qu'est-ce que vous avez pu constater par rapport à de hier à aujourd'hui?
Ouais.
Puis là, on ne se censure pas parce qu'on veut parler de la réalité vraie, là, du quotidien. Vous le vivez au quotidien.
Ouais. Moi, quand je suis arrivée...
Je pense qu'il y a des manques. On dirait qu'il y a toujours eu des manques. C'est ce qui fait que le monde se débrouille tellement avec leurs propres affaires, puis... Ils sont inventifs, puis c'est nécessaire, mais encore, tu sais.
Moi, quand je suis arrivée dans l'école, là, 25 ans environ, là, on avait toute une équipe de réadaptation. On était en partenariat avec ce qu'on appelait à l'époque l'IRDPQ, qui est maintenant...
IRDPQ.
Ouais, l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec.
OK.
Donc, maintenant, c'est fusionné dans le CIUS, CN, Capitale Nationale. Mais on a fonctionné longtemps, nous, avec l'IRDPQ, et on avait toute une équipe de professionnels en réadaptation intégrés à l'école, qui avaient leur bureau ici, là, dans l'autre partie de l'école. Okay. Donc, on avait plusieurs orthophonistes, on avait 2 ergothérapeutes, 1 travailleuse sociale.
On parle d'il y a combien d'années, là?
On parle, là, et mon Dieu, là, je ne veux pas dire de
15 ans, 20 ans, ouais, mettons?
C'est ça, là.
OK, vous aviez tout ça, là.
On avait tout ça d'intégrer à l'école, et les orthophonistes de l'IRDPQ travaillaient avec nous de concert avec les enseignants, et c'est que leur clientèle était ici, à l'école. Il y avait disons qu'on était dans une vague moins d'intégration. On avait beaucoup d'élèves sourds. Et là, le trouble du langage a commencé à rentrer un petit peu là, progressivement là, au fil des années. Mais donc, ils venaient chercher les élèves dans les classes pour faire une thérapie de 30-45 minutes. Ils allaient dans leur bureau avec le jeune et ils nous le ramenaient dans les classes. Ça faisait l'affaire de tous. Ça faisait l'affaire des enseignants. Parce que le jeune bénéficiait d'un service là, tout de suite sur place. Les orthophonistes perdaient beaucoup moins de temps à se déplacer à gauche et à droite pour aller rencontrer leurs clients.
On est toutes là sur place, là.
On est toutes là. Et les parents, ils gagnaient beaucoup.
Ah, oui.
Parce qu'ils savaient que quand leur enfant venait à l'école...
Tout était là.
Tout était là.
Qu'est-ce qui a changé?
Bien, ça... Là, il y a eu les fusions. L'IRDPQ est disparu. Il y a eu le CIUS. et l'approche, les services ont changé. Disons que ça, les approches sont maintenant différentes. Là,
on a coupé aussi.
Puis on a coupé dans les services. Puis ça a eu du moins bon, puis ça a eu du bon dans le sens que ça l'a obligé un petit peu le centre de services et l'école ici à développer. On a développé nos propres services. C'est là qu'est apparu à un moment donné, une orthophoniste engagée par la commission scolaire à 50 % de tâches la première année pour supporter nos élèves. Ils sont tous en trouble du langage, ils ont tous besoin d'orthophonie. Ouais. Parce que là, on sentait là, que les services sociaux là, de Réadapt, là, ils s'éloignaient là, de nous, là, de notre mission. Il y en a encore, là, je veux vraiment être... pas juste, là, mais...
Pas être défaitiste complètement,
non,
mais...
Non, c'est ça, puis je veux être honnête, c'est ça, avec toutes les institutions qui nous entourent. Il y en a des orthophonistes du CIUS qui viennent à l'école travailler avec nos jeunes. Oui, puis on les apprécie. Puis merci de venir, on compte sur eux, puis
ben oui.
Ils sont importants pour nous. Mais il n'y en a pas assez.
C'est sûr.
Il y a beaucoup de jeunes qui mériteraient avoir des soins, avoir des services, et ils n'en ont pas.
Okay.
Donc, l'école a développé ses services d'orthophonie, et maintenant, on a une ergothérapeute à 50 % de okay. temps, du temps aussi. Là,
si vous étiez assis devant le ministre de la Santé, vous qui êtes une spécialiste, là, vous êtes en éducation spécialisée, vous leur dites quoi? Vous dites quoi aux grands décideurs par rapport à votre travail, vos besoins, les familles, ce qu'ils ont besoin? En quelques mots, là, qu'est-ce que vous diriez? Auriez-vous quelque chose à dire?
Il y aurait beaucoup de choses à dire.
Ouais.
Mais enfin, vous nous confiez des enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont un avenir, somme toute, hypothéqué parce qu'ils ont des grandes difficultés.
Des grands défis.
Donnez-nous les moyens de les aider. On a deux orthophonistes maintenant avec nous à l'école et on en est très contents. Mais vous voyez, là, notre ergothérapeute, là, enfin, on a trouvé une ergo parce que c'est un autre enjeu, hein? La main-d'œuvre, les ressources disponibles, pas disponibles, bon, tout ça. Mais notre ergothérapeute, là, elle est à 50 % du temps ici. Là.
C'est... Alors qu'elle devrait être à temps
plein. Elle devrait être à temps
plein. Elle manquerait pas de job, mettons.
Puis
hein?
Il pourrait en avoir deux.
Oui, c'est
puis ça. Puis les deux auraient du travail à temps plein dans l'école, faire des thérapies de groupe. Il y aurait du travail pour tout ce monde-là, c'est sûr. Là.
Facilement.
Donc, les ressources, là, on a besoin. Donnez-nous-en des ressources. On a la chance maintenant d'avoir une psychoéducatrice avec nous. On n'avait pas avant. Là, on a une. Merci, c'est vraiment pratique. On a une neuropsychologue qui est avec nous, qui nous aide à cibler les... je dis des fois qu'elle couche sur table le cerveau de nos élèves. Elle nous aide à comprendre comment fonctionner.
Oui, comment ils fonctionnent. Oui, c'est ça.
Donc ça nous aide beaucoup. Mais des ressources là, comme de ce genre-là, là, on a besoin, on en prendrait encore plus. Là.
Et en terminant, Martine, qu'est-ce que vous pourriez transmettre aux parents, aux familles? Quel message vous auriez envie de transmettre aux parents d'enfants qui arrivent justement à l'âge de 4 ans ici? Un peu perdu, un peu démuni parce que la tâche est grande.
Ouais.
Trouver les services, s'organiser. Vous diriez quoi à ces familles-là?
Ben, je dirais en premier lieu, faut y aller. C'est un pas à la fois. On évolue un pas à la fois. Vous avez un enfant qui a des difficultés, l'école va mettre tout en branle.
Faites-nous confiance.
Oui, faites-vous confiance comme parents et n'essayons pas de tout de suite, parce que des fois, on a des parents qui sont en processus de deuil quand nos enfants sont petits, qui nous disent, moi, mon enfant, il va-tu le faire, son secondaire? Je veux savoir, il va-tu le faire? Puis c'est quand, là, qu'il va être capable de lire, mon enfant, là? Faut y aller un pas à la fois. Là, votre enfant, présentement, il est à la maternelle. On va essayer de tout mettre en place, une base solide, pour après construire des apprentissages sur sa base. Puis on va évoluer avec votre enfant.
Faites-vous confiance, faites-nous confiance, puis travaillons ensemble.
Travaillons ensemble.
Main dans la main, on est une équipe.
Ça, c'est sûr, c'est à la base. Là, de faites confiance à l'enseignant au TES qui entoure votre enfant, puis faisons équipe ensemble.
Exact.
Moi, je le dis souvent à mes parents, vous savez, on travaille ensemble, là, on est une équipe, on est dans le même bateau là, ensemble. Là. Donc, c'est...
Merci.
Ben, ça me fait plaisir.
Merci de nous avoir accueillis dans votre école aujourd'hui. C'est toujours tellement génial de découvrir concrètement c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi les lieux, c'est quoi. Ouais. C'est vraiment merveilleux.
Et moi, je suis toujours partante pour participer à ce genre d'événement-là pour Ben, c'est ma mince contribution là, en tant qu'enseignante. Là, je suis dans le milieu, je suis imprégnée. Mais pour faire comprendre à la population en général, les enfants qui ont des besoins là, particuliers, c'est des enfants avant tout qui ont des besoins normaux, comme tous les enfants. Puis
ouais.
Ces enfants-là, là, ils ont un apport à apporter à la société. Quand ils vont être adultes, là, on a besoin de main-d'œuvre, hein? On manque de main-d'œuvre. On a beaucoup de ces enfants-là qui, à leur façon, peuvent contribuer à l'avancement.
Ouais.
Qui ont un potentiel à leur façon, qui vont contribuer à l'avancement de notre société. Il faut les intégrer avec nous et leur faire confiance.
Merci, Martine.
Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup.
Julie-Pierre!
Oui!
Allô? Marie-Claire, ça fait plaisir. Merci de nous accueillir. Maison des Lucioles.
Eh oui, maison Lucie-Bergeron, c'est ici.
Exact. Mais moi, je vais découvrir ça. Merci. Julie Pierre Bolduc Lacasse.
Oui.
Merci tellement de nous accueillir dans cette maison-là, de les maisons des Lucioles. En fait, il y en a deux.
Oui, exactement.
Alors, celle-ci, c'est.
La maison Lucie Bergeron.
OK.
Et on a la maison Thomas Boucher pour le volet hébergement.
OK. Fait que les deux servent la même clientèle, mais ici, c'est plus. C'est quoi, des services de jour?
Oui. En fait, la clientèle générale est de 0 à 21 ans. Oui. Pour ce qui est de la maison Thomas Boucher, c'est pour le volet hébergement, donc les mêmes âges, mais avec les jeunes autochtones dont leur famille réside dans les communautés du Nord du Québec.
OK.
Pour leur permettre d'avoir des services spécialisés de santé et d'avoir une scolarité le plus longtemps possible.
OK.
Avec des polyhandicaps, déficience intellectuelle, avec ou sans trouble du spectre de l'autisme.
OK. Toi, tu as eu tout un parcours, puis là, ça fait comme 3 ans que tu es ici. Ouais, tu es arrivée ici. Ouais. Puis, tu disais que c'est quand même un défi de trouver ta place. Toi, oui, tu es arrivée ici, puis là, tu as un coup de cœur.
Oui, oui, oui. En fait, j'ai eu l'occasion de faire mon premier stage en éducation spécialisée ici. À l'époque, c'était seulement la maison des petites Lucioles, parce qu'il y avait une seule installation, la maison de Lucie Bergeron. Puis, c'est la première journée que j'ai vécue, c'était juste une journée d'observation. Après ça, c'était la première fois que j'avais l'impression de pouvoir exercer une profession, un métier qui me plaît, qui me correspond.
Oui, oui, tu l'as trouvé ici.
Ouais, ouais.
C'est qui, Lucie Bergeron?
C'est une fondatrice d'une organisation dans les années 90. Puis il y a beaucoup de CPE qui sont nés justement de cette organisation-là.
Okay.
Principalement là, dans la région du Nord, justement dans les communautés autochtones. Puis de là, il y a eu du financement pour la maison des petites Lucioles. Et voilà.
Et ainsi de suite.
Exact.
Alors, parle-moi de cette maison-là, donc Lucie Bergeron. Comment ça se passe ici? Là? Ça ouvre, les portes ouvrent à quelle heure? Puis on se disait, il doit avoir du bruit,
oui,
puis de l'action
oui,
ici.
Oui, hein? L'action, c'est sûr. En fait, c'est des services spécialisés. Autrement dit, des services de répit de fin de semaine pour les gens de la région de Québec. Donc, actuellement, là, ça peut être du samedi toute la journée jusqu'à 19h, ou avec un dodo le soir, ou le lendemain seulement le dimanche là, de 9h jusqu'à 16h. On a aussi le service de garde après l'école pour une clientèle adolescente. Donc, okay. Vers 2h30, ils commencent à arriver jusqu'à 18h en semaine.
Puis les parents viennent les chercher
oui.
ou peu importe.
Oui, c'est ça.
Ils s'en viennent ouais. ici après
ouais.
l'école.
Ouais.
C'est les 0-21 ans.
Oui. Ouais.
Puis tout ce beau monde-là est ensemble.
Eh oui.
Fait qu'il y a des petits, puis il y a des grands.
Oui, on est les seuls de la région de Québec à offrir un répit de 0 à 5 ans. C'est sûr qu'ils sont plus rares, mais il y en a quelques-uns là, qui fréquentent les services.
Puis j'imagine des fois, ben oui, les grands doivent quand même... Est-ce que vous voulez laisser, on joue ensemble?
Oui, oui, oui. Des fois, ça fait des belles relations.
Ben, oui.
Aussi, là, j'en connais... J'ai un duo en tête, là, un jeune de 17-18 ans avec un plus jeune de 9-10 ans. Là. Puis c'est comme si c'était avec une belle influence là, sur le plus jeune.
Comme le grand frère, un peu.
Ouais.
C'est quand même génial.
Ouais.
C'est quoi les activités qu'on fait ici?
Ici, ça fonctionne par thématique de mois, généralement. Comme il y a des...
De mois,
oui.
Mettons en janvier.
Ouais. Par exemple, le mois de mars, c'est dans des sucres. Fait que là, on découvre, là, bien sûr, des cabanes à sucre, des bricolages pour ça, les différentes thématiques. On a des activités spéciales aussi qui viennent à la maison. On a justement, là, il y a un projet là, de mural là, dans le couloir.
Oui, j'ai vu qu'il a commencé, là.
OK, les jeunes ont participé également. Là, chacun a participé avec leurs petites bonbonnes selon là, ce qu'il est capable de faire. Puis, des fois, il y a des sorties extérieures. La semaine dernière, ils sont allés à la piscine, si je ne me trompe pas, en après-midi. Au centre communautaire. Fait que c'est vraiment un peu de tout là, pour répondre à chacun et à chacune.
Oui, parce que
c'est un beau moment.
C'est ça, puis chacun à son niveau,
oui,
selon
oui,
ses
oui.
besoins.
Oui, oui.
Puis quand on dit là, des services spécialisés, ouais. ça se traduit comment? Tu sais, je pense peut-être à un de tes jeunes. Tu dis, ben, cette personne-là, quand elle arrive ici, voit, tu sais, comme je vois là au plafond, c'est quoi cette raille-là qu'on voit là?
C'est pour un lève-personne, j'allais dire mobile, mais lui, il n'est pas mobile, il est statique.
Ouais.
Mais oui, c'est parce que certains sont en fauteuil roulant,
ouais.
C'est pour permettre de faire un transfert de façon sécuritaire, là. Puis autant pour le jeune que pour les intervenants. C'est une des façons de faire, spécialisée dans le sens, dans le type d'alimentation aussi, parce que c'est pas tout le monde qui peut être nourri par la bouche. Certains, c'est par d'autres façons, gastrostomie qu'on appelle. Là. Donc,
gavé, gavage, c'est ça, le gavage.
Ouais, exact. Fait qu'on a les intervenants formés pour le faire ici. Puis, on peut penser là, dans les pauses sensorielles, on a une salle blanche, une salle sensorielle pour répondre aux besoins aussi.
Ça veut dire,
par exemple, pour certains jeunes, là, quand il y a trop de stimuli, à un moment donné, il faut comme...
S'isoler un peu. Exact. OK, puis, fait que la chambre blanche,
on
s'en va là, puis on chill. Il y a certains qui diraient, on va aller chiller.
On chill, on respire, puis on se reconcentre un peu. Des fois, on appelle ça des décharges motrices aussi. Là. C'est comme un lieu où que le jeune peut... laisser sortir ce qui est trop, puis il y en a qui sont quand même autonomes là-dedans, là, qu'on y va tranquillement, doucement, puis de lui-même ou d'elle-même, elle sort là, quand elle s'en prête. Des fois, ça prend un petit 15 minutes, puis on sent un changement là-dedans. Là. Mmh. Autrement dit, spécialisé dans le sens d'être attentive aux besoins, puis pouvoir s'adapter autant les activités que les lieux, puis l'environnement. Là.
Exactement. Ouais. Et dis-moi donc, parce qu'ici, on peut dormir aussi.
Oui, exact. La fin de semaine, il y a maximum 5 jeunes qui peuvent dormir le samedi.
Sous surveillance, évidemment, par des intervenants.
Ouais.
Mais j'imagine, là, pour les parents, là, quand tu viens porter ton jeune, là, la première fois, ça se passe comment?
Ben, c'est sûr que c'est pas tout le monde là, qui réagit de la même manière. Les parents sont peut-être plus habitués que d'autres.
Ouais.
C'est sûr qu'on peut faire des retours. Là. Je sais qu'il y avait certains parents qui demandaient là, d'appeler le soir le parent. Juste des quelques petites nouvelles, savoir comment ça a été durant la journée. Des fois aussi, c'est pour rassurer son enfant, lui parler un petit peu.
Ouais,
surtout quand c'est la première fois, là, parce qu'on dit 0-21, ça veut dire qu'il y en a de 5-6 ans aussi. Là.
Exact. Donc,
c'est plus petit. Là.
Donc, c'est ça.
Mais ça fonctionne bien. Puis c'est aussi possible là, de commencer par des demi-journées aussi. Là, on s'adapte là, à la fois au processus d'acceptation du parent que là où le jeune est rendu.
Puis est-ce que, j'imagine que oui, mais quand même, tu sais, dans ces processus-là, toi, tu as vu là, depuis quelques années que tu es ici, là, comment les jeunes évoluent, tu sais. Il y a un certain, j'imagine, détachement aussi qui se fait. Ça fait partie, ça, du répit puis des services. Mais ça doit être beau aussi de voir qu'un enfant va peut-être arriver ici vraiment apeuré, il veut pas rester. Vous le forcez pas, évidemment, mais de voir cette évolution-là aussi, puis pour les parents, ça doit être particulier.
Bien, en tout cas, pour nous, c'est sûr que certainement, c'est beau de voir l'évolution des... Surtout que certains arrivent sont non-verbaux, ils connaissent juste quelques signes. Puis là, avec le temps, on voit... Il est rendu qu'il fait des phrases complètes, il est assez beau à voir. On voit l'évolution aussi à ce niveau-là.
Puis des fois, c'est en s'éloignant des parents aussi qu'on se met à voler. Hein? On n'a pas le choix là, de... Fait que vous vivez ça aussi.
Oui, puis d'apprendre à connaître les jeunes, d'aller au-delà de leurs jeunes aussi.
Oui.
Surtout, je trouve que les répits permettent ça parce que... Il y a comme une espèce de climat familial aussi. Puis le soir, vu qu'ils sont un peu moins nombreux, on peut découvrir plus la personnalité.
Oui, c'est plus intime aussi. Puis là, bon, on va arriver à notre belle Juliette qui vient ici. Toi, je pense que ça fait comme un an que tu la connais, là, Juliette.
Oui, bien, même plus, quand j'ai fait mon stage, j'étais ici. Fait que je l'ai connais à ce moment-là. Elle était plus petite à ce moment-là.
Oui. qu'est-ce que Juliette, tu pourrais dire de Juliette, dont tu l'as connue un peu plus petite maintenant? C'est une adulte, elle a 18 ans. Ouais.
Pour moi, c'est une sociable. Juliette, là, elle rentre à une place où on arrive, elle est là, elle salue son monde, là, j'ai envie de dire. Là,
super attachante.
On a eu
tellement de plaisir avec elle ce matin, là, affectueuse.
C'est une participative, là, elle embarque dans les affaires. Elle a comme le sens de l'humour aussi, là, elle embarque.
Elle est volontaire.
Oui, volontaire, vraiment, vraiment.
Wow. Ouais,
c'est vraiment fun, on fait plein d'affaires ensemble.
Oui, mais c'est ça, toi, t'es au niveau de l'administration, mais en même temps, on jasait tantôt, puis on se disait que... Tout le monde met la main à la pâte, là.
Il y a un moment ou un autre, là. Il y a aussi un moment où j'étais intervenante aussi avant. J'étais aussi responsable du service de répit fin de semaine. Fait que j'étais là aussi terrain, là. Fait que j'ai eu l'occasion de la côtoyer, de marcher avec elle, de faire différents jeux, d'aller dans l'imaginaire. J'ai travaillé 4 ans dans un centre de la petite enfance. Puis c'est sûr qu'aller dans les jeux de l'imaginaire, on peut faire... On peut découvrir plein de choses pour nous-mêmes, puis aussi pour les jeunes, là. Souvent, c'est là-dedans qu'ils embarquent, là. Puis on peut être surpris là, de ce qu'ils nous apportent, là.
Qu'est-ce que tu viens chercher là-dedans, toi? C'est quoi ça a été? Quoi cette direction-là que tu as voulu prendre dans ta vie? Ça te procure quoi?
Je pense que c'est le contact réel et vrai, sincère avec la personne.
C'est authentique, hein? Ça peut pas être plus authentique.
Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de calcul. C'est ça. Dans tout, c'est ça.
C'est ça.
Des fois.
Tout, là, dans tout, tout ce qu'on peut penser, c'est tout ça. Ben oui,
ouais.
Fait que l'authenticité,
ouais.
Hein.
Ouais.
Puis j'imagine, il y a une complicité, puis il y a une affection mutuelle immense qui doit se développer.
Je pense
c'est comme que... nos petits frères, petites sœurs, à quelque part, hein. Il y a un peu ça dans notre rôle.
Oui, parce que dans la relation, dans la manière de rentrer en communication aussi, c'est différent. Puis je crois que moi aussi, ça m'interpelle. Dans mon petit bout de carrière, là, ce qui me rejoint beaucoup, ce qui me rappelle encore, c'est les relations justement où la personne est non-verbale, mais comment on arrive à communiquer autrement. Dans les regards, dans les gestes.
Et on communique.
Ah oui, on fait c'est pas semblant, là, on dit beaucoup de choses. Là. Puis parfois beaucoup plus que ce qu'on peut dire durant 2 heures avec quelqu'un. Là. Puis encore une fois, c'est sans filtre, c'est authentique, c'est un vrai lien. Puis après ça, c'est comme si quand on se revoit, il y a toujours le même lien étant formé.
J'imagine aussi que, tu sais, la relation avec la famille, là, je veux dire, là aussi, encore une fois, je pense partout, mais encore une fois, ce lien-là, on fait équipe avec ces gens-là.
Oui, puis on a conscience que c'est ce qu'ils ont de plus précieux, là, qu'ils nous confient. Fait que c'est important pour nous là, de l'honorer, si on veut, là, cette confiance-là qu'ils nous donnent. Et de respecter à la fois les routines établies à la maison, les protocoles de
c'est
santé.
C'est ça.
Différents le barème par rapport à ça.
Pour qu'eux autres puissent dormir tranquilles, parce que Dieu seul sait que le répit, c'est quand même nécessaire pour les parents, puis ils n'en ont pas beaucoup, puis il y en a qui ont de la difficulté à aller chercher de l'aide aussi. Hein?
Mm.
Et que j'imagine quand tu les vois arriver une première fois, ils doivent être comme des petites bêtes apeurées de laisser ce qu'ils ont de plus précieux, comme tu dis. Hein? Fait que comme vous le sentez tout de suite,
clair. Oui.
Fait que c'est quoi votre approche?
On essaie de rassurer le plus possible, là, mais d'être là... puissent comprendre qu'on est là pour eux aussi, pour le jeune, puis qu'on va faire tout en notre possible pour qu'ils puissent être bien. Puis que justement, le répit, c'est pour le jeune et le parent.
Exact. Puis j'imagine que vous devez aller jusqu'à dire « Je vous rappelle dans une heure. »
Ben oui, oh,
on
oui.
On s'appelle
oh,
tantôt.
Oui, oh, oui assurément. Là,
puis vous ne dites pas non à l'enfant qui
non,
dit « Je veux parler à maman. »
Non, non, non.
C'est ça.
Puis
hein?
Surtout que des fois, là, ça peut être déchirant, là, les premiers départs.
Oui.
Par exemple, à 4-5 ans, il quitte là, le parent, puis là, il est en pleurs, là, le parent, il ne sait pas trop comment réagir. Finalement, il part, là, puis justement, là, on rappelle après, là, parce que des fois, ça dure 3-4 minutes, puis l'enfant il est en train de jouer. Là.
Comme n'importe quel enfant qui s'en va à la garderie ou qui arrive à l'école pour la première fois.
Ouais, exact.
Il y a beaucoup de défis.
Ouais.
Ma question, ça serait, quels sont les plus grands défis, en fait, auxquels vous faites face auxquels les enfants font face? Comment ça fonctionne, tout ça?
C'est selon moi une bonne question, dans le sens qu'il y a des défis. C'est sûr que mais les ressources humaines, on ne se le cachera pas. Là. Je pense qu'il y a eu des périodes là, où il y a manqué de la main-d'œuvre un peu partout, de la main-d'œuvre qualifiée, de la main-d'œuvre prête. C'est sûr que c'est un service communautaire. Fait que c'est certain que ce n'est peut-être pas les mêmes conditions qu'ailleurs. Fait que ça peut être un défi là, à ce niveau-là. J'ai envie de dire la beauté du défi là-dedans, parce que oui, peut-être que ça peut être difficile, les ressources humaines, mais en même temps, quand on est là, c'est parce qu'on veut être là. Je trouve que c'est important aussi. Puis c'est un cadeau puis une richesse aussi qu'on a. Puis les défis, c'est sûr que ça reste toujours une question de financement, mais on ne veut pas, puisqu'on est au volontaire aussi. Fait que c'est de pouvoir trouver là, les fonds nécessaires pour continuer
c'est
à répondre aux besoins.
Puis est-ce que les parents ont un rôle aussi à jouer? Est-ce que vous sentez que les parents participent et contribuent ou cherchent à différentes façons.
Oui, je pense que oui. Puis je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance là, qui a été là beaucoup dans les années puis qui repart aussi là, pour continuer à grandir ce sentiment d'appartenance-là aux puissances plus larges des messieurs. Puis le défi des jeunes, je pense que c'est leur défi à eux. Je pense que c'est de pouvoir être compris, être accepté pour qui ils sont. Puis nous, c'est notre plaisir, j'ai envie de dire, là, notre enjeu à nous, notre défi à nous, mais surtout, c'est ça pourquoi qu'on est là aussi. Là,
c'est ça.
De pouvoir les comprendre.
Puis les aider à s'accepter.
Oui. Ouais.
Parce qu'eux autres aussi, ils doivent vivre des frustrations en regardant les autres aussi. Ouais. Le mot répit, on le disait, ça arrive avec beaucoup de culpabilité aussi, évidemment. Est-ce que tu dirais que c'est instantané, là? Les parents qui arrivent ici, puis ils se permettent un moment de répit, ou est-ce que ça s'apprivoise, ça?
Je pense que ça s'apprivoise. Je pense que c'est une espèce de processus aussi, là, parce que des fois, on peut partir avec des attentes qu'on a envers nous-mêmes en tant que parents. Mmh. Fait que c'est de pouvoir se dire, ben juste que c'est correct, là, de le normaliser aussi, je pense, là, d'en parler. Faut pas que ça soit tabou, puis c'est correct.
Si on parle de l'évolution de vos services, ça existe depuis quand, les...
De mémoire, 90-95.
C'est
95.
Ça. Fait que, est-ce que tu es à même de pouvoir constater l'évolution?
Oui.
Ça fait 3 ans que tu es là, mais tu dois connaître leur histoire. Et c'est toujours dans le communautaire.
Ouais.
Fait que ça a été quoi l'évolution de ce service-là?
Mais comme dit la directrice générale, on grandit avec nos disciples. Au début, c'était de 0 à 12 ans. Après ça, ça a extensionné là, de 13 à 21. Là, on a un des résidents qui vient d'avoir 21 ans. Fait qu'on est dans un projet pilote qui va commencer à l'automne.
C'est ça, vous avez eu de la nouveauté. Oui, là, maintenant, c'est 21 ans et plus.
Oui, c'est ça, pour offrir un service de jour en semaine. Pour
ben ça, c'est révolutionnaire un peu là, pour fait vous, là, parce qu'il
oui,
y en a
c'est
peu
nouveau,
de
c'est
ça.
Nouveau, ouais, c'est nouveau pour nous. Puis là, c'est de voir comment on va le faire, comment, à quelle couleur. Mais c'est en processus de là.
C'est vraiment une autre étape.
Oui.
Puis ça aussi, là, pour les parents, je veux dire, ça, ça ils doivent tellement être contents de savoir que là, il y a un service.
Oui, oui.
Donc, ça va être un service de jour.
Oui. Bien, pour l'instant, je peux pas
vous aimeriez offrir les mêmes services, en fait, de continuer pour
ceux actuellement, ce qui est en train de se parler, c'est vraiment un service de jour de semaine, quatre jours semaine, un peu comme un centre de jour qui, des fois, là, se font un peu déjà à d'autres endroits, dans d'autres ressources, pour correspondre à une réalité qui a une clientèle comme la nôtre, avec une efficience intellectuelle plutôt moyenne, si on peut bien la qualifier, là, pour justement là, accompagner un des résidents qui est dans cet âge-là. Là.
Parce que 21 ans, c'est une autre étape.
Là. Oui, parce que en fait, pourquoi 21? Là? Des fois, on parle de la question, c'est parce que c'est à 21 ans que l'âge scolaire termine. Donc, le jeune doit quitter l'école. S'il quitte l'école, il va où? C'est ça la question. Là. Parce que là, ça veut dire qu'il est à la maison, le parent doit continuer de travailler, sa réalité n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on fait avec son enfant. Là. Fait que c'est vraiment pour répondre à ce trou de service-là. Si on
veut. Fait que je pourrais même me dire, il doit déjà avoir une liste d'attente,
Oui, c'est ça, exact.
C'est sûr.
Oui, il y a des besoins. Là.
Immense.
Ça, c'est sûr. Ouais.
Si, Julie-Pierre, si tu avais à t'adresser aux grands décideurs, à ceux qui prennent des décisions, puis ceux qui, on va le dire, le ministère de la Santé, de l'Éducation, qu'est-ce que toi, comme intervenante spécialisée, tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces gens-là? Parce que toi, tu es dedans à tous les jours, là.
Des fois, je pense que c'est vrai qu'on reconnaît le travail, mais on oublie que ce que ça prend derrière. C'est vrai que ça prend une bâtisse, ça prend de l'entretenir, ça prend des gens qui y travaillent, ça prend des qualifications, ça prend des formations, à être à jour tout le temps. Fait que ça fait beaucoup de choses qui c'est comme qui est oublié. Fait que ça aussi, ça compte. Puis qu'on est là pour les jeunes, pour les familles, puis qu'on... On doit se serrer les coudes, là, tout le monde ensemble, si vous voulez.
Fait que soyez là pour nous, pour qu'on puisse continuer à être là pour les familles et les jeunes. Puis si tu avais une jeune famille là, qui est devant toi, j'ai posé cette question-là à tout le monde, de jeunes parents, des parents qui, peut-être leur enfant a 12-15 ans, mais que c'est assez nouveau d'avoir des services, qu'est-ce que tu dirais à ces parents-là?
Profitez-en.
Profitez-en,
puis on est là pour ça. Puis des fois, je sais que ça peut faire peur, puis que vous avez l'impression que nous, c'est peut-être notre première fois parce que vous avez côtoyé plein de personnes, c'est leur première fois, puis vous pouvez être insécure par rapport à ça. Mais c'est arrivé plus d'une fois que quelqu'un était à la première fois avec nos services, puis disait, je sais pas si vous savez comment faire telle chose. Ben nous, on est habitués. On en a vu d'autres.
Ouais, mais toi, c'est ton enfant.
Mais dans le sens que parce que aussi, eux, ils ont eu à appeler ma soit une gardienne ou à appeler quelqu'un qui n'était pas au courant de comment ça fonctionnait. On est là pour ça.
Fait que vous profitez-en. Êtes complètement équipé pour gérer ça et faire face à ça.
Puis si jamais une nouvelle réalité qui s'amène, bien, on va s'arranger pour être équipé puis pour être formé.
Et d'être à la hauteur de vos besoins pour c'est votre trésor, c'est ça.
Voilà,
ben, merci beaucoup, Julie-Pierre.
Ben, merci beaucoup.
Merci de nous avoir ouvert les portes de votre univers, en fait, de votre monde.
Ben, merci d'être venu.
Merci.
On peut jouer au train de la laine?
Oui.
Bravo!
Bravo!